Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc on va essayer de réfléchir sur ce thème. A priori ce thème il s'adresse plutôt aux célibataires, mais comme il y a des gens mariés d'après ce que je comprends, donc vous l'utiliserez pour vos enfants ou éventuellement pour vos petits-enfants. Ce sont des choses qui arrivent. Alors cette notion là du choix du partenaire, elle démarre d'une Gemara dans Sota Daf Bet. Là-bas la Gemara elle dit comme ça: Kiava patach Resh Lakish besota. Lorsque Resh Lakish y commençait cette Gemara, Amarachi disait comme ça: En mezav gimlo le adam isha ela lefima asav. On ne fait rencontrer à un homme une femme seulement selon ses actions. Chez Neymar, c'est marqué kilo yanoir shevet aracha al goral tzadikim. Parce que il ne va pas faire tomber la part, le sort du racha, du mécréant, al goral tzadikim sur la part des tzadikim. C'est entendu que les gens qui se ressemblent. Alors ils se rencontrent. Ajumoukou, il ne fait pas des choses tordues, des gens bien, ils rencontrent des tordus. Ah, tu dis des fois c'est faux, on voit des gens bien qui rencontrent des tordus, mais des fois les gens bien à l'intérieur ils sont tordus, et des fois les tordus à l'extérieur ils sont bien à l'intérieur. Donc c'est un peu compliqué. Donc ici c'est marqué que Mesavgim lole Adam, les fima asav, on fait rencontrer quelqu'un selon ses actes. Amar Abababachana, donc c'est entendu que ça va être durant le courant de sa vie, selon son comportement, alors il va avoir droit de rencontrer tel type de personne. Mais il y a un autre avis qui dit Amar Abiyochanan, Vekashim des Afghans qui kratiam souf. C'est difficile de les relier, de les mettre ensemble comme l'ouverture de la mer Rouge. Chez Neymar, c'est marqué Elohim Moshiv Yechidim Beta. Elohim Hashem, Moshiv il installe Yechidim. Yechidim, ce sont des gens uniques, ce sont des gens indépendants. Beta, dans une maison, pour créer une maison. Alors ici, l'Agman a dit, mais c'est pas possible. Pourquoi? Sous-entendu que c'est une chose qui est difficile dans Hashem comme l'ouverture de la mer Rouge. Et d'un autre côté, c'est une chose qui va se faire difficilement. Alors, Gmar dit à Marav, Arbaim yom kodem yetzirat avlad. 40 jours avant la conception du fœtus, bat kol yotzet. Il y a une voix qui sort, veomeret, et qui dit, bat plouni le plouni. La fille de un tel pour un tel. Sous-entendu que c'est déterminé la personne que tu vas épouser. Bat plouni le plouni, la maison de un tel pour un tel. Sade plouni le plouni, le champ de un tel pour un tel. Alors, donc c'est une contradiction, parce qu'une fois on dit que ça dépend des actes de la personne, et une fois on dit que c'est une chose qui est prédéterminée déjà depuis la conception. Alors, l'agma dit lo kasha, ça n'est pas une question. Abezivu grishon, abezivu kcheni. Ça c'est le premier partenaire. Ça c'est le deuxième partenaire. Alors, comment ça marche? On va essayer de réfléchir. La deuxième partie, on l'avait déjà cité plusieurs fois. En vérité, ici c'est un tout petit morceau, mais c'est une Gemara dans Nida, d'Afté Zahin. Elle dit qu'au moment où les parents conçoivent l'enfant, il y a un ange qui prend la goutte de semence, c'est-à-dire la semence de l'homme et de la femme mélangée, qui l'amène devant Hachem et qui dit « Tipazo matealea », cette goutte-là, qu'est-ce qu'elle va être? Et à ce moment-là, Hachem il va dire « Est-ce qu'il va être ani? Est-ce qu'il va être riche? Est-ce qu'il va être pauvre? Est-ce qu'il va être intelligent? Est-ce qu'il va être bête? Est-ce qu'il va être beau? Est-ce qu'il va être moche? Est-ce qu'il va être grand? Est-ce qu'il va être petit? Est-ce qu'il va être riche? Qui va épouser? Quelle maison il aura? Les enfants qu'il aura? » Tout ça, c'est fixé à ce moment-là, au moment de la conception. Maintenant, si quelqu'un il va dire, mais c'est un peu tôt, l'autre elle n'a pas vécu, elle n'a rien fait, comment on peut décider à ce moment-là? Alors ici, on parle de quoi? En vérité, que quelqu'un, quand il vit quelque chose, à chaque fois qu'on vit quelque chose, j'ai expliqué plusieurs fois qu'une personne, elle existe sur trois niveaux. Au niveau physique, c'est-à-dire que son corps physique, il vient avec un potentiel, il se développe, il atteint un certain âge, une maturité, ensuite il vieillit, ensuite il meurt. Et ça, c'est déjà inscrit à l'intérieur. Ça, tout le monde sait dans la génétique. Que toute ma vie physique, elle est inclue à l'intérieur de moi. Mais il y a aussi une aventure psychologique, c'est-à-dire que mon moi personnel, c'est-à-dire mes caractéristiques intellectuelles, émotionnelles, ma gestion de la sérénité, de la peur, ma capacité à être hypocrite ou à dire la vérité, ça aussi c'est des données qui sont à l'intérieur de mon psychique et que je vais passer ma vie à développer. Est-ce que je vais être moi-même? Est-ce que je vais me réaliser? Est-ce que je vais aller au bout de mes choix? Ou est-ce que je vais être un menteur? Je vais être un fumeur de vitamines? Qu'est-ce que je vais être? Ouais. Ça veut dire que mes potentiels, il est à l'intérieur de moi, et moi je vais vivre une aventure physique qui va faire de moi physiquement ce que je suis, une aventure psychologique qui va faire de moi ce que je suis, et une aventure spirituelle qui va faire de moi ce que je suis au niveau de ma neshama. C'est trois aventures. Maintenant, les trois aventures, elles peuvent être menées à fond, les trois aventures, elles peuvent ne pas être menées. Maintenant, quelqu'un, il a des insuffisances au niveau physique. Quelqu'un, il a un accident qui lui tord la colonne vertébrale. Maintenant, il a une insuffisance, je ne sais pas, au niveau thyroïde. Alors, sa croissance, elle est moindre. Donc, il n'aura pas la même taille. Il n'aura pas la même force physique. Celui-là, au niveau psychologique, il n'a pas dépassé le 4 du Yetzerara. Donc, il croit qu'il se réalise à travers les bêtises. Après, il se culpabilise. Après, il se trompe de combat. Il se bagarre avec ses parents au lieu de se bagarrer avec lui-même. Il se bagarre avec la société au lieu de changer. Donc il va prendre un autre parcours, d'accord, au niveau psychologique. Il va avoir des complexes, des malaises, des angoisses qui n'auraient pas dû être s'il avait géré, mais qu'il n'a pas géré. Donc il va dans un autre trajet psychologique. Donc il peut être une autre personne de ce qu'il aurait pu être. Et au niveau spirituel aussi. Oui. Il y avait la synagogue, la yeshiva, il y avait la Gemara, il y avait les téfilines, il y avait tout. Laisse-moi tranquille, tu me saoules, tu me prends la tête. Bon, alors il s'éloigne, le truc, il rencontre, et la Goya, il traîne, perd 10 ans, après prend une claque, revient, fait tes chouva, prend sur toi, un truc, essaie de récupérer, c'est difficile, c'est dur. C'est une autre démarche. Il y a une seule route, mais il y a beaucoup de chemins. Ouais, il y a un seul décor, mais il y a beaucoup de trajectoires. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, quand c'est marqué dans la deuxième Gemara, que quelqu'un, il va rencontrer une personne qui est prédestinée, il explique le rabbi Yaakov Amdin, ça c'est si la personne, elle a gardé son potentiel spirituel maximum. S'il a atteint son épanouissement psychologique, maximum. Si elle a atteint son épanouissement physique, maximum. Alors à ce moment-là, la personne qui lui correspond, on va lui donner. Et celle-là, elle est prédestinée. Ça veut dire qu'en vérité, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Quand les parents conçoivent l'enfant, ouais. Donc les parents, ils sont en train de vivre une histoire d'amour, c'est extraordinaire, je t'aime, tu m'aimes, voilà, on va accueillir un enfant dans notre couple, c'est extraordinaire. Ça, c'est à leur niveau à eux, ouais. Mais au niveau d'Hachem, c'est un autre problème. C'est que lui, il doit amener une neshama dans le monde. La neshama, elle vient de quelque part. Elle est déjà passée par des vies antérieures. Elle va peut-être encore avoir des autres vies. Donc Dieu, il a un projet qui s'appelle l'épanouissement spirituel de la neshama. L'homme au niveau psychologique, il va avoir un projet qui va démarrer avec sa naissance, parce qu'heureusement qu'on ne s'occupe pas des vies intérieures dans la psychologie, sinon on devient cinglé, ouais. Donc il va avoir un projet personnel de se réaliser. Et à part ça, il y a un projet physique qui existe, une matière, que ton corps il est là, il faut le gérer, il faut le nourrir, il faut le soigner, il faut s'en occuper, ou alors il faut le subir parce que tu as des pulsions, parce que tu as des nerfs, parce que tu es un pauvre type. Donc tout ça, c'est des choses qui sont en toi. Il va falloir le gérer. Maintenant, tout ça, c'est obligé de le déterminer au moment de la conception. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a un puzzle. Ouais, il a un puzzle. Dans ce puzzle, il y a des pièces. Maintenant, toi, tu es une pièce du puzzle. Quand elle arrive à cette étape au niveau temporel, dans le temps, maintenant, il y a cette neshama, elle a quelque chose à faire. Maintenant, en fonction du travail que la neshama a besoin de faire, qui est en fonction du travail qu'elle a déjà fait dans les vies antérieures, on va déterminer une mission. Vous me suivez ou non? Pour cette mission, elle va avoir besoin d'outils, elle va avoir besoin de rencontres, elle va avoir besoin d'épreuves, elle va avoir besoin de bonheur, elle va avoir besoin de difficultés, elle aura besoin de certains types d'amis, de certains types d'ennemis. Tout ça, c'est les éléments dont on a besoin pour faire son travail. Pour faire sa mission, pour faire son développement. Bonjour. Ça va? Et ça, on est obligé de le déterminer au départ. Pourquoi? Parce qu'on dit « En malchuta noge'et bechaverta ». Une royauté ne peut pas être sur une deuxième royauté. Ça veut dire quoi? C'est que chacun, il a sa place. Maintenant, toi, tu es en même temps le fils, tu es en même temps le fils de ses parents-là, et tu es en même temps le petit-fils de ses grands-parents, et en même temps, tu es aussi le petit-fils des autres grands-parents, et en même temps, tu es venu un moment dans leur vie, et à un moment, tu as une place dans cette école, et tu as des amis comme ça, et des histoires comme ça, et des problèmes comme ça. Donc, tu vas être au milieu d'un puzzle. Maintenant, quand Akadosh Baruch Hu, il crée le puzzle, il met les pièces en place. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est les gens qui changent le puzzle. Ils ne veulent pas être à leur place, ils veulent être à une autre place. Donc le bon Dieu, il va être obligé de s'adapter au fur et à mesure. Ça s'appelle Zivuk Sheni, le deuxième partenaire. Et ça c'est les filles Ma'asav. Les filles Ma'asav, c'est selon mes actions. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que j'évolue, dans un sens ou dans l'autre, je détermine la personne qui est en face de moi. Pourquoi? Parce qu'on a déjà expliqué plusieurs fois que la vie, c'est une série de partenariats. Toute la vie, on va rencontrer des gens qui vont nous aider à grandir. Des gens qui vont nous aider en nous aimant, des gens qui vont nous aider en nous haïssant, des gens qui vont nous aider en nous encourageant, des gens qui vont nous aider en nous faisant des croche-pattes. Mais ils vont être là. Ce sera des partenaires nécessaires. Maintenant, les plus longs partenariats, c'est les parents avec les enfants. La personne que tu épouses, ouais. Les amis, un peu plus longs, un peu moins longs. Après, les professeurs, ouais. Et les ennemis, d'accord. Donc, ça veut dire quoi? C'est des gens que tu vas rencontrer. Après, comment tu vas te mesurer avec eux? Ou tu vas grandir ou tu ne vas pas grandir. Ou tu vas profiter de ça pour grandir, ou tu ne vas pas profiter et tu ne vas pas grandir. Maintenant, si tu grandis, eh ben, tu évolues. Si tu ne grandis pas, automatiquement, il faut qu'on trouve encore une autre catégorie. Comme quelqu'un qui traîne et qui ne fait plus rien, alors on est obligé de sortir d'école, après il traîne dans la rue, après il faut qu'on lui trouve un truc sérieux, mais c'est pas sérieux, puis alors là où il va, il fait le balagan, alors après il est foutu dehors, après il traîne, après l'autre il dit viens, tu vas dealer, après il veut un peu gagner d'argent, manque de poids, il s'est fait attraper, après. Mais tout ça de quoi? Tout ça de quoi? D'un choix qu'il a fait. Parce que les gens ne veulent pas accepter ça. Parce que les gens, ils croient que la vie, c'est comme un film. Genre, quand on a marre, t'appuies sur un bouton. Mais il n'y a pas. La vie, ce n'est pas un film. La vie, c'est des causes et des conséquences et des causes et des conséquences. Maintenant, il y a des gens, toute leur vie, qu'est-ce qu'ils font? Ils cassent et ils réparent. Maintenant, ils croient que comme ils peuvent réparer, c'est pas grave s'ils cassent. Mais la capacité de réparer n'a pas été donnée pour les gens qui cassent. La capacité de réparer a été faite pour que tu évites de casser. Parce que tu sais qu'on peut réparer. Donc comme tu sais ce qu'il ne faut pas faire, tu ne vas pas le faire. Il y a des gens, non. Non. D'abord, ils s'engueulent. Après, ils s'excusent. D'abord, ils trompent leur femme. Après, ils essayent de récupérer la confiance. D'abord, ils font des avérotes. Après, ils veulent faire teshuva. Mais pourquoi? Pourquoi toujours le film à l'envers? Pourquoi le film à l'envers? Pas le faire à l'endroit. Pourquoi pas à l'endroit? Ouais. Pourquoi pas à l'endroit? Et si quelqu'un il va dire, bah, c'est pas grave, c'est le temps, c'est la jeunesse, il faut passer par une certaine expérience. Mais il y a plusieurs expériences. Il y a des expériences qui te donnent des muscles, et il y a des expériences qui laissent des cicatrices. Il y en a qui te font perdre un bras. Pas forcément un bras physique, des fois un bras psychologique. Ça va, t'es bien? Ouais. Ils ont dit qu'aujourd'hui, par exemple, le hashish, oui, à cause des OGM, il est concentré 60 fois plus qu'avant. Et que 80% des gens qui prennent régulièrement du shit, ils finissent chez un psychiatre. Ou pour schizophrénie. Schizophrénie, ouais. Ou alors des accès comme ça de folie. Ou de peur. Ou des visions. Ils voient tout le monde qui s'allonge par terre. Levez-vous. Non, non, personne ne s'est allongé. Pourquoi? Parce que c'est un choix. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'on va faire des choix dans la vie. Mais ces choix, il faudra les assumer parce que des fois, ils prennent des directions qui sont parfois irréversibles. C'est cher. Ouais, maintenant elle est enceinte. Ah, je l'aime pas, je l'aime pas, je l'aime pas. Elle est enceinte, baba. Maintenant l'enfant, il est né. Ah, j'aime pas son style, mais il est né. Maintenant tu t'es marié. Maintenant tu as pris l'argent, tu l'as dépensé. Il faut le rendre. Ouais. C'est normal. Maintenant tes poumons, ils sont pourris. Alors tu peux plus. C'est comme ça. Non, je regrette. Allez, on fait comme si c'était fini. On remet le film avant. Il n'y a pas de film avant, c'est pas une cassette. T'as pas la télécommande. Donc c'est quoi l'idée? C'est que les deux démarches, les films à Asav ou les films à Zalo. Les films à Zalo, c'est selon l'absolu. Dans l'absolu, normalement, si tout va bien, ça va être comme ça. Les films à Asav, c'est que la vie, elle va se calquer à tes choix. Alors tes choix, des fois, ils sont bons. Tes choix, ils sont mauvais. Le problème, c'est qu'à chaque fois que tu changes, la personne qui est en face de toi, elle change. Un peu comme le miroir. Un miroir. Tu viens bien habillé, comme ça, tu te mets devant. La photo, elle est magnifique. Tu viens avec une tronche de cake. La photo, elle est moche. Après, tu dis, mais c'est qui cette tronche de singe? C'est toi, c'est un miroir. Tu dis, mais c'est... C'est grave? Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que tu l'as épousé. Il y en a qui se réveillent comme ça. Il y en a, grâce à sa secrétaire, il a vu qu'il n'a jamais aimé sa femme.
Il n'a jamais
aimé sa femme, grâce à la secrétaire. T'as compris ou non? C'est-à-dire qu'il y a des premières débilités... qui s'est marié n'importe comment. Deuxième débilité, qu'il n'a pas construit son couple. Troisième débilité, que maintenant, il veut détruire son couple à cause d'une secrétaire qui, elle, n'a pas d'avenir. Ça veut dire quoi? Ça s'appelle Avera Goreret Avera. La faute entraîne la faute. Les gens, ils croient, la faute entraîne la faute. Ils croient que c'est de la spiritualité. Non, c'est de la réalité. Moi, toute la journée, je parle avec des gens qui sont pris comme ça dans une espèce d'avalanche de comment on va faire? Ah, mais le cerveau, c'est utile. Il faut l'utiliser à bon escient. Ça s'appelle les films à Asav. C'est-à-dire que tes actions, ils produisent une réalité. C'est ça. C'est ce que tu es. C'est ça, c'est ce que tu produis, toi. Maintenant, tu travailles, tu travailles. Tu travailles pas, tu travailles pas. C'est un choix. Maintenant, tu as de la mémoire. Tu as de la mémoire, tu n'en as pas, tu n'en as pas. Tu sais te concentrer. C'est une chose, tu ne sais pas le faire. Ah, tu dis, mais c'est pas grave. Je suis nul, mais je vais m'arranger. Non, tu ne vas pas t'arranger, baba. Tu vas subir ta nullité. Maintenant, ta nullité, elle peut venir gentiment, elle peut venir violemment, elle peut venir doucement, mais elle va venir. C'est impossible. C'est impossible que quelqu'un il a vomi sur un tableau et il n'y a aucune trace. Et c'est un tableau, il vaut 700 000 euros. Il a vomi. Il dit, vite fait comme ça, au musée, vite fait. Qu'est-ce qu'il est vite fait, papa? C'est des auréoles, c'est des taches, c'est un tableau. 700 000 euros, t'as vomi. Mais ta vie, c'est un tableau. Pourquoi tu vomis dedans? Si, mais mes parents, grâce à Dieu, ils vont essuyer. Ma femme, elle supporte. Mes amis, ils me comprennent. Mon psychologue, il va m'aider. Mais le tableau, il est taché. Donc en nous, on doit réfléchir avec qui on doit se marier et qu'en nous, on doit essayer de, de faire rencontrer à nos enfants des gens, ou alors nous, si on veut essayer de réfléchir sur la personne que nos enfants vont nous amener. Parce que des fois, c'est toi qui choisis, des fois, c'est toi qui choisis, c'est pas toi qui choisis. Là, j'étais Shabbat. J'étais dans un Shabbat plat, à côté de Paris. Une jeune fille, elle est venue me voir. Elle m'a dit, voilà, Ramen Chetrit, ça fait un an et demi que je suis avec un garçon. Il est religieux, moi aussi. Mais les parents ne sont pas au courant. J'ai dit, première erreur. Déjà, Traloued. Vous avez joué un peu... Ouais. Après, maintenant, le père, il n'est pas pressé qu'il se marie parce qu'il a dit qu'il faut qu'il fasse des études. Combien? 5 ans. Un an et demi plus 5 ans, ça fait 6 ans et demi. C'est-à-dire qu'il faut être en tungstène ou en platine pour tenir. Je dis, mais il faut parler. Mais le garçon, il n'ose pas. Alors, il ose faire des avérotes, mais il n'ose pas parler à ses parents. Quel genre de courageux. T'as compris ou non? Et qu'est-ce qu'ils font les gens? En fin de compte, ils fabriquent des situations et après, ils ne savent pas s'en sortir. Ça, ça s'appelle les filles Maassa. Maintenant, un garçon. Si tu sens dans sa nature qu'il a besoin de se marier, une jeune fille, il y a des gens qui sont précoces. Il y en a qui sont nia, ils ne savent même pas que ça existe. Il y en a qui sentent qu'ils ont besoin de se marier, ils ont besoin de se poser. Ouais, déjà à 12 ans et demi, elle se maquille. D'accord? À 17 ans, elle cherche des trucs qui la servent bien ici. Ouais. Donc tu sens que c'est là, à 20 ans, il faut la marier. Mais non, on va lui faire des études de 5 ans. 5 ans, Christian, il l'attend à l'université. Hein. T'es obligé, c'est la nature. L'autre, le contraire, il a une autre forme d'équilibre. Celui-là, il est carriériste, il a 100% dans ce qu'il fait, il a besoin, il va finir dentaire, laisse-le tranquille, il est bien. Ouais, il n'a pas besoin. Celui-là, il est Bahroui Shiva, il est bien, il est à 100% dans son étude. Tu lui dis, maman, laisse-moi tranquille, ça va. Si tu vois qu'il te dit, maman, tu sais, un truc, et il veut téléphoner, il cherche une copine, alors commence à réfléchir. C'est bien, c'est pas grave. Ouais, il ne dit pas, Chas V'Shalom, et pourquoi? Et ça, c'est par rapport à toi. Maintenant, malgré tout ce que tu auras préparé, malgré tout ce que tu auras réfléchi, il faut quand même imaginer que l'enfant. Peut-être qu'il a des autres choix. Je ne sais pas si vous me suivez. Peut-être qu'il va t'amener autre chose que ce que tu pensais. Des fois, tu as des enfants très intellectuels qui cherchent des gens très simples. Des fois, tu as des gens très simples qui cherchent des gens très intellectuels. Des fois, des gens très religieux qui cherchent des gens pas religieux. Des fois, des gens pas religieux qui cherchent des gens très religieux. Il faut que tu te prépares. C'est-à-dire que malgré tous les efforts que tu feras, ça restera que 50%. Parce que les autres 50%, c'est qu'est-ce que l'enfant il veut. Moi j'ai eu des cas avec des parents qui voulaient rien savoir. Je dis écoutez, on lui a parlé, on a expliqué, maintenant le gosse il est ou il est têtu ou il est déterminé, on ne sait pas encore. Ouais. Alors, si vous avez tout fait et que ça ne marche pas, il va falloir l'accompagner. Il va falloir l'aider, ou alors non, ça va être la guerre. C'est comme tu veux. Et ça c'est difficile. Parce qu'a priori, on cherche le bien de l'enfant ou on cherche notre bien à nous. On cherche notre réputation ou on cherche son bonheur. Et bien des fois, l'orientation de l'enfant, le choix de l'enfant, il te montre au fond, peut-être tu n'as pas compris qui c'est ton enfant. Parce que tu as confondu tes ambitions et sa réalité. Et si tu vas dire, oui mais je sais que c'est une erreur, je sais que ça va se mal terminer, et bien je te dis que quand tu as tout fait pour que ça marche et que ça ne va pas, bah peut-être que ça s'appelle une expérience. Il y a des gens, ils ont besoin de prendre une treha pour comprendre. Et ça fait de la peine. Parce que tu vois, et même tu dis, et tu expliques, attention, elle n'est pas construite, la fille, attention, elle est mal dans sa peau, attention, toi, tu joues le papa, attention, ce garçon, il n'est pas équilibré, ce garçon, il n'a pas d'avenir, il n'a pas d'ambition, fais attention. Oui, mais tu le juges mal, parce que tu es contre moi. Vous avez compris ou non? C'est qu'il y a toujours la partie de l'effort qu'on doit fournir, mais à part ça, ça restera une proposition. Après, maintenant, ça dépend comment on a donné à l'enfant la conscience, comment on lui a appris à nous respecter, comment on lui a appris à tenir compte de notre avis, ou non. Mais si l'enfant, il croit que la liberté, c'est de faire le contraire, il croit que la liberté, c'est de se rebeller, il croit que la liberté, c'est d'aller contre, alors peut-être sa liberté, ça va être d'aller dans le mur. Et bien, la seule manière de le savoir, c'est d'aller dans le mur. C'est ça qui est malheureux. On fait tout, on explique, on parle. Encore quelqu'un là, j'ai rencontré un jeune homme aussi. Il m'a dit, oui, mes parents, je le voyais déjà hargneux. Je sais pourquoi t'es hargneux, c'est tes parents. C'est pas clair. C'est tes parents. C'est quoi, t'es nerveux. Ouais. Pourquoi? Alors je lui ai dit, tu t'es trompé de combat. Tu t'es trompé d'ennemi. Tes copains que tu les connais depuis 3 semaines... qui t'emmène dans la vodka et le shit, tu les trouves extraordinaires. Et tes parents qui veulent faire de toi un homme bien, hein, tu les trouves un gars et stressant. Donc tu t'es trompé d'ennemi. Ouais. Maintenant, encore une fois, ça, par rapport à l'enfant, ça doit être une remise en cause personnelle de réfléchir qui sont ses amis, qui sont ses ennemis. Mais le parent, ça veut dire qu'il doit réfléchir, est-ce qu'il a assez donné la confiance? Est-ce que l'enfant, il est assez en sécurité de se dire, eh ben, quand vient l'épreuve, je vais quand même réfléchir. Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils veulent mes parents? Pourquoi ils ne le font pas? C'est-à-dire que nous, dans une situation, c'est notre école à nous, notre école de pensée juive, l'école du moussard, l'école du travail sur soi, c'est de dire, la situation, elle me concerne. Ouais. Il y a d'autres écoles, c'est la faute de l'autre. L'autre, il va dire, c'est la faute de ta mère, la faute de ton père, la faute de tes amis, la faute de tes enfants, la faute de l'école. Non, nous, on dit, j'ai une part dedans et je réfléchis, quelle est ma part? Qu'est-ce que je dois faire dedans? Je dois faire ma part. Peut-être je dois changer, peut-être je dois avoir une autre approche, peut-être je dois donner une autre relation, je ne sais pas, mais je dois le faire. Mais de renvoyer la balle, ça fait avancer personne. Donc c'est exactement pareil ici. Les filles ma'asav, c'est-à-dire que la personne elle-même, maintenant il y a deux regards, maintenant il y a le regard, parce que je suis obligé de faire le cours en double, le regard en tant que parent et le regard en tant que personne. Un homme, il doit connaître ses ma'asim, un homme, il doit connaître ses actions. Il doit savoir ce qu'il fait. Parce que ce qu'il va épouser, ça ressemble à ce qu'il fait. C'est comme ça. Il n'y a pas de halomot, il n'y a pas. Moi, toujours, je dis, si tu rentres avec 5 euros chez Hermès, tu ne vas pas demander un sac en cuir. Tu dis, allez, je t'en prie. C'est Hermès. Hermès. Le sac en papier, avec la cordelette en cuir, il coûte 17 euros. Le sac, il coûte 5000 euros. Toi, tu dis, j'ai 5 euros. Mais va chez ta mère. Va acheter même un faux, ça coûte 100 euros. Tu veux un vrai à 5 euros. Pourquoi? Parce que la personne, elle se ment elle-même. Elle ne veut pas mettre une caméra au-dessus de sa tête et se dire. Maintenant, je vous dis la vérité, quelqu'un qui sait qu'il est un menteur, il va épouser une menteuse. Il faut accepter ça. Ouais. Quelqu'un qui sait qu'il est coléreux, ou il va épouser une serpillière, ou il va épouser quelqu'un qui gueule plus que lui. C'est comme ça. Ouais. Quelqu'un qui n'a pas confiance dans les gens, ou il va épouser quelqu'un qui a toujours peur, ou il va épouser quelqu'un qui va générer qu'il n'aura pas la confiance. C'est une épreuve. Tout à l'heure, j'étais au téléphone avec un monsieur d'Israël, il m'a téléphoné. Il m'a dit, Rabbi Ria, j'ai une grosse difficulté en ce moment d'argent, et ma soeur, elle est bourrée d'argent, et je lui ai demandé de me faire un prêt, et elle ne veut pas me prêter. Je lui ai dit, écoute, la dernière fois, tu m'as dit, c'est tes beaux-parents qui ne veulent pas t'aider. Maintenant, tu me dis, c'est ta soeur qui ne veut pas t'aider. Je lui ai dit, mais tu as 45 ans, tu es père de famille. Ah, j'ai dit, il y a deux problèmes. Premier problème, c'est que toi, tu penses que l'argent de l'autre, c'est ton argent, puisque tu as besoin. Très grave erreur. Ouais. Alors que c'est Dieu qui doit te nourrir, c'est pas l'autre. D'accord? Deuxième erreur qui est plus grave, c'est que comme tu t'es mis dans une situation d'exigence, ouais, parce que c'est pas normal, et c'est pas normal, et c'est pas normal, comme tu t'es mis dans une situation d'exigence, c'est quoi ton épreuve? C'est que tu vas être déçu. D'accord ou non? Celui qui exige, il est déçu. Maintenant, celui qui n'attend rien, tout ce qu'on va lui donner, il sera content. Mais celui qui est en attente, celui-là, ouais, il va être déçu. Moi, je vous dis la vérité. Ouais. Toute l'année, je fais des activités. Bon, vous me voyez une fois par mois. Ouais. Mais je fais beaucoup de cours, beaucoup de conférences. On distribue 200 000 cours par an. On distribue 10 000 livres gratuits. Donc, je fais un gala, je ramasse de l'argent. Maintenant, moi, j'ai des gens qui sont venus chez moi la veille du guet. J'ai sauvé leur couple. Son fils, il était homo. Maintenant, grâce à Dieu, il s'est marié, il a 3 enfants. Celui-là, il était dans la cocaïne. Grâce à Dieu, il a sorti. Ouais. Je crois que le type, il m'a téléphoné pour me dire j'ai 3 euros, j'ai 5 euros, j'ai rien. Rien. Maintenant, moi, je le vois dans un gala, il donne 20 000 euros devant moi. Et moi, il me dit, Mazel Tov. Maintenant, moi, j'ai rien, moi. Bon, au Hachem, j'ai rien. Moi, je ne lui ai rien demandé. Bon, au Hachem, je ne lui ai rien demandé. Il ne m'a rien donné et je suis très bien. T'as compris ou non? Ça veut dire quoi? C'est que moi, je ne vais pas avoir une exigence. Parce que moi, ma part à moi, c'était je veux l'aider. Maintenant, lui, il peut réfléchir que c'est possible, que c'est normal qu'il fasse quelque chose ou non. Mais pas pour moi, moi j'ai pas besoin de son argent, grâce à Dieu, j'ai pas besoin de la Zdaka. Mais il peut faire, on peut distribuer des choses, on peut faire. Ou non, maintenant il le fait pas. Maintenant l'autre là-bas qui le connaît pas, qui lui a demandé le lendemain, il lui a donné 20 000 euros. D'accord? Et moi je vais me stresser pour finir l'argent du collègue. Mais ça me dérange pas. Je vais pas mélanger les dossiers que moi je l'ai aidé et lui il me doit. Mais les gens qui vivent comme ça, moi je t'ai aidé et toi tu me dois. Alors j'ai dit alors à ce moment-là, j'ai dit au type, alors je comprends pas. Alors ça veut dire que, il dit ouais, mais tous les ans elle vient chez moi à la maison en vacances. Je veux dire, ça veut dire qu'en vérité, quand tu l'as reçu à la maison, en fait t'as acheté un crédit chez elle. T'as compris ou non? Donc je lui dis, toi, maintenant, vous avez un problème. Elle a un problème qu'elle n'est pas sensible, et bien qu'elle a de l'argent, elle a etc., de ne pas donner. C'est son problème à elle. Et toi, tu as un problème de croire que parce que tu lui as rendu service, elle te doit quelque chose. Chacun, il a son problème. Maintenant, toi, ton Yetzera, puisque ton Yetzera, il est d'exiger, donc le Yetzera, il t'a préparé la déception. Donc tu vas avoir la haine. Donc tu vas dire que tu viens plus à la maison. Donc tu viendras pas au mariage de la petite. Regarde comment il t'a entraîné. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris la photo de ta vie. Tu n'es pas capable de te regarder. Il me dit, mais comment ça se fait que vous, vous compreniez du premier coup? Et moi, c'est ma vie, à moi, je ne comprends pas. Je dis, parce que moi, j'ai du recul. Moi, je fais ce travail. Comme je vous parle en même temps que je vous parle, et je mets une caméra au-dessus de ma tête, je m'écoute parler. Quand je parle à mes enfants, je mets une caméra au-dessus de ma tête. Oui, ce matin, j'ai le rabbi m'a dit quelque chose pour mon fils. J'étais le voir, j'ai dit, comment je vais lui présenter? Je ne veux pas qu'il le prenne mal, je veux qu'il comprenne bien la chose, je veux qu'il comprenne que je l'aime, mais qu'il faut qu'il y ait un petit travail à faire. Je réfléchis comment je vais faire. Je dis non, il m'a stressé le rabbi, je vais aller fracasser le gosse. Après, le gosse, il est angoissé, il va à la yeshiva, il s'angoisse, après, il téléphone, il a fait des bêtises. Le rabbi me dit, t'as vu ton fils, il fait des bêtises. On va rentrer dans une. Mais ça, on peut le faire seulement si on a du recul. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait, le Yetzerara? Il te fait jouer avec le téléphone pendant que tu le cours. Il t'empêche de réfléchir. Il t'empêche de prendre du recul. Alors que c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut avoir les yeux ouverts comme ça, pas comme un con. Les yeux ouverts comme ça, ouais. Très fort. Parce que la vie, elle n'est pas facile. Se tromper, ça prend une seconde. Les gens, ils meurent en une seconde parce qu'ils ont raté un virage. Ils mettent leurs enfants handicapés parce qu'ils ont raté un virage. Ah, j'avais tourné la tête. Mais c'est ta vie qui est en train de passer, Yahmar. Et maintenant, tu ne réfléchis pas. Maintenant, tu dors. Mais quand tu vas te réveiller, peut-être que ça sera trop tard. C'est ça l'idée. C'est ça les filles ma'asav. Les filles ma'asav, je vous dis, hein, c'est pas la peine, les gens ils croient que c'est de la Kabbalah. C'est très simple. Tu regardes ta vie, tu regardes tes actions, tu te regardes dans une glace, la personne que tu vas épouser, elle est exactement comme tes actions. Ça te plaît pas, fais tchouba. Non, mais je vais embrouiller, au dernier moment, je vais trouver quelqu'un de bien. Je dis, un garçon, il est venu chez moi. Il m'a dit, Rabbi Chitrit, voilà, moi j'ai fait tchouba il y a 2 semaines, et je voudrais une fille. Je voudrais une fille vraiment clean de chez clean. Ça veut dire quoi clean? Il m'a dit une fille clean. Je sais quoi clean? Je veux dire, elle a été au pressing ou j'ai pas compris. Il m'a dit non. Il m'a dit une fille qu'elle a rien fait. Je dis, j'ai compris. J'avais compris en vérité. Je dis, mais toi, t'as rien fait? Il me dit, non, moi, j'ai fait le grand jeu, moi. Je dis, alors pourquoi tu vas mériter comme ça quelqu'un qui a fait attention pendant 20 ans alors que toi, t'es chaloua de serpillière? Pourquoi? Il m'a dit, mais les garçons et les filles, c'est pas pareil. Je dis, moi, je comprends. Moi, je comprends. Moi, je crois que quelqu'un qui a fait un effort, il a droit à quelque chose. Quelqu'un qui n'a pas fait un effort, il n'a pas le droit. Ah, si tu as fait une teshuva de malade, il y a 5 ans, tu as fait 3 ans d'ishiva, tu as pleuré ta mère de toute la vérité que tu as fait, et tu venais vraiment, tu n'es plus le même garçon, mais 3 semaines après, en sortant de boîte, tu me dis, le ravi m'a dit, maintenant, je vais mettre les téfilines, et tu veux une fille. Tu la mérites pas, regarde. Tu la mérites pas. Il s'est énervé. Oui, il m'a dit, quoi? Vous me parlez comme ça? Il m'a dit, vous allez voir ce que vous allez voir. J'ai dit, j'attends de voir. Il vient un an après, il me donne la carte. Il m'a dit, hein, regardez. Alors, hein, là voilà la carte. Mademoiselle, 3 ans de séminaire, ça déquête. Elle a rien fait. Alors, hein? Alors, vous êtes trompé? Je dis, ah bon? Ça m'étonne. Pas un garçon. Il me dit, pas un garçon qui l'a touché. Pas un garçon. Je lui dis, ah bon, pas un garçon. Il me dit, oui, pas un garçon. Je lui dis, t'as vérifié pour les filles? Il a vérifié. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous avez compris ou non? Il a trouvé. Il m'a dit, mais je suis maudit. Je fais, tu n'es pas maudit. Tu es défini. Tu veux autre chose, tu changes. Tu changes pas, pourquoi le bon Dieu? Regarde, c'est marqué. Kilo Yanouar Shevet Aracha Algora la Tzadikim. C'est marqué. Qu'est-ce que tu veux maintenant? C'est un passou, tu ne sais pas lire. Voilà, lis-le en français, tu ne sais pas lire en français. Hachem, il ne va pas envoyer la part du Racha, il ne va pas l'envoyer au Tzadik, et la part du Tzadik, il ne va pas l'envoyer au Racha. Et qu'est-ce qu'il dit Rachid? Regardez ce qu'il dit, c'est Rachid, il dit Mezav Gimisha Lefima Asaf, il dit Tznoua, les Tzadik. Tznoua, une fille pudique à un Tzadik. Ou Proutza, une fille débauchée à un rachat. Alors moi toujours je me disais, mais pourquoi c'est marqué une fille pudique à un tzadik? On aurait dû dire une fille tzadekette à un tzadik, ouais, et une fille rachat à un rachat. Pourquoi on a dit proutza? C'est bizarre, non? Débauchée. Alors en vérité, le problème c'est quoi? C'est que dans on va dire, entre guillemets, dans la, le trajet spirituel d'une fille et le trajet spirituel d'un garçon,
ouais.
Et les choses, la façon d'agir et la définition de la personne, elle n'est pas la même si on est à Véro de Confé. Par exemple, moi, un garçon, il me dit, moi, je ne comprends pas pourquoi ma femme, elle, elle danse devant tout le monde dans la bar mitzvah. Elle se met au milieu, comme ça, elle nous fait genre Madonna. Je dis, mais toi, tu es chômeur Shabbat? Il me dit, non. Je dis, mais toi, tu triches dans le travail? Il me dit, oui. Je dis, alors, tu vois, tricher dans le travail, chez un homme, ça correspond à ça chez une femme. Donc, elle, son Yetzirara, il est dans l'extérieur, donc elle va montrer son corps. Et toi, ton Yetzirara, il est de voler au travail. Mais en vérité, vous êtes pareil. Mais pas dans le même domaine. Vous suivez ou non? Parce que toi, tu n'as pas Yetzirara de te montrer. Et elle, elle n'a pas Yetzirara de mentir au téléphone, dans le travail. Donc, chacun dans son domaine, il va se développer selon son choix. Mais au fond, vous êtes les mêmes. C'est-à-dire que vous avez le même niveau de dégradation, mais pas dans le même domaine. Ça, il faut accepter ça. Vous suivez ou non? Comme nous-mêmes, en tant que parents, on doit accepter que des choses qu'on voit chez nos enfants, en vérité, viennent de nous. Les gens, ils disent, non, Chas v'Shalom, c'est une mauvaise influence de l'école, il a rencontré un mauvais copain, il a... Peut-être l'enfant, le copain, il a influencé, mais le terrain, il est là. D'où il a eu le terrain? C'est génétique. C'est bon, non? Maintenant, un terrain, il peut être un terrain mauvais, un terrain, il peut être un terrain bon, un terrain, il peut être un terrain parvé. Par exemple, quelqu'un, il est sensible, c'est bien. Alors, mais cette sensibilité, quand elle est prise dans le mauvais sens, elle fait des bêtises. Quelqu'un, il est influençable, c'est bien. Quand il entoure avec des gens bien, c'est bien. Mais quand il est avec des gens mauvais. Quelqu'un, il n'a pas confiance en lui. Alors, bah, il va se battre pour avoir confiance. Ou alors, il va suivre des gens qui vont lui dire quoi faire, parce qu'il n'a pas confiance. Donc, le terrain. Et nous, on le connaît, le terrain, puisqu'il vient de nous. Maintenant, nous, on peut avoir cette intelligence de dire, attention, cet enfant-là, il faut que je travaille sur ça. Cet enfant-là, il faut que je travaille sur ça. Cet enfant-là, il veut que je travaille. Pourquoi? Parce que moi, je suis partenaire pour lui donner. Mais je sais que si le travail n'est pas fait de son côté ou de mon côté, il va rencontrer la personne qui correspond. Ça s'appelle l'effet Marassa. Comme quand vous déchirez un billet en deux, vous prenez un billet de 100 dollars, vous le coupez en deux. La déchirure d'un côté, elle vous donne la forme de la déchirure de l'autre. Tu dis, mais peut-être c'est différent. Mais non, bah, on l'a coupé en deux. C'est comme vous, non? Donc, en fin de compte, la complémentarité de l'homme, c'est la femme. D'accord? La complémentarité du mari, c'est la femme. La complémentarité de la femme, c'est le mari. Comme la basket et l'emprunt. Vous vous rappelez la basket et l'emprunt? Oui, non? Vous révisez ou? Une basket. Prenez une basket. La basket, elle a une forme. Ouais? Chaque basket, elle est différente. On sent que le type qui l'a dessiné, il a dû... Ouais? Les... Oui, en dessous, vous savez, c'est très bizarre.
Les chaussures
de gym. Les Nike, d'accord. Maintenant, tu prends la basket, tu l'enfonces dans la terre. Quand tu la sors de la terre, il y a l'empreinte de la basket. Mais ça s'appelle une empreinte inversée. C'est-à-dire que ce qui est un creux, par exemple, dans la basket, dans la semelle, ça va faire un relief dans l'empreinte. Et ce qui va un relief dans la semelle, ça va faire un creux dans l'empreinte. Maintenant, l'empreinte, c'est ta réalité. L'empreinte, c'est ta femme. L'empreinte, c'est ton mari. L'empreinte, c'est ta parnassa. Et toi, c'est la basket. Donc, ce qui est un plus chez toi, ça va être un moins chez ta femme. Ce qui est un moins chez toi, ça va être un plus chez elle. Les choses que tu n'as pas réglées, tu vas retrouver chez tes enfants. Vous savez comment ça fonctionne? C'est une empreinte. Maintenant, d'accepter l'homogénéité de l'empreinte, ouais, ça s'appelle la emouna. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur. Si tu es entouré de pauvres types, c'est que tu es un pauvre type. Tu dis non, Chas v'Shalom, ça n'a rien à voir. Tu sais, je joue un jeu. Tu es un pauvre type, il y a des pauvres types en face de toi. Si tu es quelqu'un d'intelligent, tu es avec des gens intelligents. Si tu es quelqu'un qui fait des efforts, tu rencontres des gens qui font des efforts. Si tu es quelqu'un qui glande, tu vas rencontrer des glandeurs. C'est comme ça. C'est la basket. Elle ne triche pas, la basket. C'est une empreinte. Avec une empreinte, on peut accuser quelqu'un de meurtre, mais monsieur, il y a votre empreinte. Tu dis non, c'est par hasard. Vous savez, on en vend des millions des baskets. Non, non, mais c'est la vôtre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les filles marassaves, et ça c'est une grande école de la vie, que quelqu'un selon ses actions, s'il a l'honnêteté de se regarder, il sait ce qu'il va épouser. Ah, les gens disent non mais c'est pas vrai, parce que des fois on voit des gens complètement idiots qui rencontrent des gens extraordinaires, ça existe, ça fait 3000 ans qu'on raconte des histoires aux gens, ça s'appelle Cendrillon, ça s'appelle la princesse et le roi, ça s'appelle une folle histoire de trucs et love story et blablabla. Mais pourquoi on fait ça? Pour faire rêver des imbéciles. Regardez Cendrillon, c'est extraordinaire. Vous avez déjà fait l'analyse psychanalytique de Cendrillon. Cendrillon, c'était une jetée. qu'est-ce qu'elle va épouser? Un prince. Des fois, c'est le contraire. C'est un crapaud. D'accord. Mais tu l'embrasses, il devient un prince. Mais c'est quoi l'idée? Cendrillon. C'est une jetée. Donc, elle va épouser un prince. Donc, grâce à ça, il y a 20 millions de jetés qui pensent qu'ils vont épouser un prince. Maintenant, pourquoi Cendrillon a du mal à se marier? Parce qu'elle avait des chaussures en verre. Et la deuxième chaussure, elle est? Elle est cassée. C'est dur de trouver une deuxième. Alors, les gens, ils disent, mais tu sais pourquoi j'arrive pas à trouver une personne? J'ai pas trouvé. Je vois 40, 50, t'es pas marié. Pourquoi? J'ai pas trouvé ce qui me correspond. J'ai pas le ressenti. J'ai pas le. Je dis, mais c'est normal. Mais dis pourquoi? Je dis, parce que si la chaussure, elle est en verre, elle s'est cassée. Maintenant, puisque les chaussures, elles vont par paire, donc la deuxième chaussure, c'est toi. Donc, si toi, t'es en verre, la personne que tu vas rencontrer, elle va se casser. Si toi, t'es en cuir, t'es souple, t'es adapté, t'es adaptable. Une fois, quelqu'un m'a dit, mais alors, à ce moment-là, on peut se marier avec n'importe qui. Dans l'absolu. Si t'es quelqu'un de gentil, de sérieux, d'honnête, tu vas rencontrer quelqu'un de gentil, sérieux, d'honnête, vous allez construire ensemble. Tu dis, oui, mais c'est pas pareil. Moi, je veux de la passion, je veux de la vibration, je veux de la... Il faut une base d'amour, ouais. Moi, j'ai des gens qui m'appellent, ils me disent, ah, ben, voilà, ça fait un mois et demi, je ressens rien. Je ressens rien. Ouais. Ils disent, il n'y a pas de déclic. Il n'y a pas de déclic. Ouais. Il n'y a pas de sentiment. Ou alors, elle ne me plaît pas. Elle n'a pas les qualités morales que j'aurais espérées. D'accord. Ou alors, il te dit, elle n'est pas assez intelligente. Ou l'autre, il te dit, non, mais je voulais quelqu'un de très, très intellectuel. Je dis, mais vous êtes intellectuel. Elle me dit, non. Ben alors, il va s'ennuyer. Ouais. Une comme ça qu'elle m'avait... Je vous avais dit cette histoire. Une dame qui m'appelle, elle me dit, voilà, je voudrais savoir si c'est mon zivoug. Je dis, mais vous allez vous marier quand? Elle m'a dit, on est mariés. Je dis, ah bon? Depuis combien de temps? Elle me dit, 22 ans. Je dis, mais vous avez des enfants? Elle me dit, 9. 9 enfants? Je comprends, ça fait 22 ans que vous êtes mariés, vous avez 9 enfants, vous demandez... Elle m'a dit, oui, parce que moi, je suis quelqu'un de très, très intellectuel, et mon mari est quelqu'un de très simple. Je dis, on peut pas. Moi, je dis, moi aussi, je suis un petit peu intellectuel. On peut parler un petit peu de philosophie tous les deux? Elle me dit, bien sûr. Je parle, elle comprend rien. Et ça, elle comprend rien. Et ça, elle comprend rien. Je dis, je crois que vous n'êtes pas intellectuel. Je m'excuse. Ah bon? Je suis pas intellectuel? Non, vous êtes plutôt chmara plutôt. Ouais. Je dis, en fait, compte, votre mari, il est comme vous. Mais comme elle a une frustration d'un truc que son mari, il est intellectuel, il n'est pas intellectuel, alors elle croit qu'elle est intellectuelle. Mais tu n'es pas intellectuel. Donc, une personne qui ne se connaît pas, toute sa vie, elle va souffrir. Parce qu'elle ne se connaît pas. Ouais. L'autre, il est sûr qu'ici, il rencontre une fille riche, il va être heureux. Voilà. Elle a épousé la fille riche. Maintenant, elle est caractérielle, nerveuse et sous médicaments. Mais elle est riche. Vas-y, embrasse les billets. Essaye d'avoir une bonne conversation avec un lingot d'or. C'est difficile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme, il devra décider... Une femme aussi, quand elle est prête à se connaître, ouais, est-ce qu'elle va accepter d'épouser la personne qui lui ressemble ou elle ne va pas accepter? Maintenant, si elle n'accepte pas, elle peut changer. Elle peut grandir. Ouais. Si elle accepte, et maintenant, si elle ne veut pas changer, elle va prendre la personne qui est en face d'elle. Ah, ici, quelqu'un dit, ah, ici, et si elle change entre-temps? Il y a des gens comme ça. Ils se marient, ouais, et après, ils changent. La fille, elle change. Comment ils vont faire maintenant? Parce que c'est le rabbi Yaakov Amdin qui explique ça, mais c'est violent. Je ne sais pas si je peux vous le dire, ça va vous traumatiser. Je vous le dis ou non? Oui, non?
Oui.
Il dit, si quelqu'un il n'a pas atteint son niveau spirituel maximum, et donc on va lui faire rencontrer quelqu'un qui lui ressemble. Et lui, il se marie avec cette personne-là, qui est gentil au demeurant. Mais lui, après 5 ans de mariage, il fait une bonne teshuvah. Maintenant, il est au niveau de la personne qu'il aurait dû épouser au départ. Mais entre-temps, cette personne-là, elle, qui avait gardé son potentiel, elle a rencontré quelqu'un aussi. Ouais. Maintenant, et là-bas, c'est le mari de l'autre qui a pété un câble. Il était chez la voisine, où il a découvert que finalement, il était nazi. C'est compliqué. Donc, il va falloir qu'elle divorce de son mari, lui, divorce de sa femme, pour que les deux ils se retrouvent. Maintenant, moi, personnellement, j'ai déjà vécu ça à peu près une dizaine de fois. Des gens qui me disent, mais Rabbi Shekhit, c'est quand même incroyable. Cette personne-là avec qui je vais me marier, si Dieu veut, vous allez venir au mariage, il y a 20 ans, on était à la même école. Et on se regardait comme ça, et des gens nous ont dit, tiens, pourquoi pas, pourquoi pas. Et puis on est parti. Moi, je suis parti de mon côté, je me suis marié avec le psychologue, il m'a frappé pendant 15 ans. Après, j'ai vécu seul pendant 5 ans. Lui, il s'est marié avec une femme, il a eu 3 enfants. Finalement, il a souffert parce qu'elle comprenait rien, elle était en moitié malade, moitié truc. Finalement, elle est divorcée. Et maintenant, on se retrouve ensemble. Les gens nous disent, on n'a pas cherché à se voir. Les gens nous disent, tiens, pourquoi pas. Tiens, en fait, tiens, divorcé, tu veux le rencontrer. Et on s'est dit, mais on était dans la même école. C'est-à-dire que la personne, ils ont perdu 20 ans. Je sais pas si vous me suivez. Ça, je l'ai vu plein de fois. Mais ça vient de quoi, ça? Et c'est très simple. C'est très simple, encore une fois. Ça s'appelle la connaissance de soi. Qui je suis. Ça, c'est par rapport à moi. Maintenant, nous, en tant que parents, c'est qui sont mes enfants? Au fond, qui sont mes enfants? Parce qu'on a de l'ambition, parce qu'on a des volontés, parce qu'on a des... Mais après, on va dire, voilà comment ils sont. Voilà comment ils sont. Celui-là, il ne veut pas étudier. Celui-là, il ne veut pas travailler. Celui-là, il veut réfléchir. Celui-là, il veut faire des études. Celui-là, il veut gagner de l'argent. Celui-là, il veut plaire. Celui-là, il veut... Tu connais ton enfant et tu vas essayer de lui amener exactement ce qui lui correspond le mieux possible. Et prier beaucoup. Mais de dire que toi, tu vas imposer une idée par rapport à ce que tu es, ou par rapport à ce que tu voudrais qu'il soit, ou par rapport à ce que tu aurais voulu être. Mais lui, il ne peut pas vivre ta vie par délégation. Je ne sais pas si vous me suivez. Il ne peut pas vivre à ta place. Et toi, d'un autre côté, tu ne peux pas exister tout le temps dans l'ombre de tes parents. Donc c'est quoi le jeu? C'est le temps que tu peux avoir une transmission, une éducation, jusqu'au moment où l'enfant il va prendre son envol, ouais, pour qu'il soit assez indépendant pour être bien, et toi et que tu l'aimes assez pour le laisser exister. C'est un jeu. Ouais. C'est un dosage. Si tu en fais trop, il devient accro-dépendant. Si tu le lâches trop tôt, il va avoir des manques toute sa vie, il va les rechercher. Il faut trouver le dosage. Et le pire, c'est que pour chaque enfant, c'est différent. On n'a pas des dosages. C'est chaque enfant. Il faut que tu t'adaptes à chaque enfant. Et si tu as 4 enfants, c'est 4 dosages. Et si tu as 10 enfants, c'est 10 dosages. Il n'y a pas. Ce n'est pas des bouteilles d'eau, au contraire, si tu fais tous les mêmes. C'est ça qui est difficile. Sachanor, Anar, Alpidarko, éduque l'enfant selon son chemin. Donc c'est possible, tu vas avoir 4 garçons et 4 belles filles complètement différentes. T'es prêt? En tant que belle-mère? Ça veut dire qu'il faut garder l'élasticité toute sa vie pour s'adapter. Si tu es rigide, ouais, comment ils appellent ça en français? Psychorigide, il va y avoir des soucis, il va y avoir des problèmes. Simplement pourquoi? Parce que tu n'as pas accepté de t'adapter. C'est pour ça qu'une fois on avait dit que est-ce que l'éducation c'est une question d'ambition ou est-ce que l'éducation c'est une question d'adaptation? Alors en vérité c'est les deux. Dans ta tête, tu dois avoir un projet, mais dans la réalité, tu dois t'adapter. Maintenant, on a déjà expliqué un million de fois qu'il n'y a pas de différence entre éduquer l'enfant qui est devant toi et l'enfant qui est en toi. Donc même toi en tant qu'homme, même toi en tant que jeune homme, même toi en tant que jeune fille, en même temps tu dois avoir de l'ambition et en même temps tu dois avoir une capacité d'adaptation. Parce que si tu es braqué, si tu es dur, le mur aussi il est dur. La vie aussi elle est dure. Donc il faut s'adapter. Et c'est ça la logique ici. Que quoi? Que la personne, quand elle, encore une fois, elle a pris le recul, elle a appris à se connaître, et elle va s'adapter à sa réalité, alors à ce moment-là, elle va avoir assez de recul pour accepter sa réalité et pour grandir avec la réalité. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une situation, et dans cette situation, c'est ce qu'on va me proposer. Après, ça va être la question, c'est combien je vais m'engager dans cette situation. Parce que tous les parachutistes du monde, avant de sauter, il y a quelqu'un qui leur dit « go », même s'il a sauté 1000 fois. Ouais. Donc c'est exactement pareil. C'est ça que la Gemara elle dit dans Tana de Bilia Uzuta, elle dit comme ça, Arba Midot Bederech Eretz. Il y a 4 comportements, Derech Eretz ici ça veut dire le mariage. Yesh Nose Isha Leshem Mamon. Il y a celui qui se marie pour l'argent. Il veut être milliardaire. Il dit moi je ne vais pas travailler de ma vie, je vais être retraité à 20 ans et demi. Il y a des gens comme ça. Yesh Nose Isha Leshem Znout. Il y en a qui se marient pour la débauche. Il veut une bête de sexe. Il veut une bombe atomique, il veut un poster. Maintenant, tous les posters au dos sont en papier glacé et blanc. C'est-à-dire que même si la photo elle est magnifique, mais quand tu retournes le poster, c'est très rare que derrière le poster, il y a un plus beau poster. En général, il n'y a rien. Ouais. Donc si toi, tu veux du superficiel, sache que derrière, il n'y a rien. Mais elle est magnifique. Hein. Tout le monde se retourne dans la rue quand il la regarde. Voilà le gyrophare. Ouais. C'est comme tu veux. Après, il dit, Veyesh Noseisha Leshem Gdoula. Il y en a qui veulent épouser une femme pour sa grandeur, ni pour son argent, ni pour son physique. Ils veulent épouser pour la grandeur. Tu sais, c'est la fille du président de truc, elle est reconnue entre le sénateur, le hbaba. Il n'est pas milliardaire, mais le kavod. Il dit, Veyesh Noseisha Leshem Shamaï. et il y a celui qui veut se marier, les Shem Shamaim. Parce que Dieu l'a demandé qu'il faut se marier, il veut se marier.
Ouais.
On va voir. On va voir. Détendez-vous, c'est que le début. Alors, écoutez bien. La Gemara dit, le Tana de Béliaou dit, celui qui est nosé Isha, les Shem Znout, celui qui épouse une femme pour la débauche, juste pour l'attirance sexuelle. Les gens ils me disent, moi il faut qu'elle me plaise. Moi je m'en fiche, intelligent, idiote, indépendant, je m'en fiche. Ce que j'ai besoin, c'est une bombe. Les gens ils veulent ça. Ça peut exister, non? Alors c'est marqué Yotse Mimeno Ben Sorer Umoré. Il va sortir de eux un enfant. C'est quoi Ben Sorer Umoré? C'est un enfant rebelle qui boit un litre de vin par jour et qui mange un kilo de viande. Ça veut dire, à la traduction, que quelqu'un qui va être très, très, très porté sur la matérialité. Pourquoi? Parce que toi, quand tu as regardé la personne, qu'est-ce que tu as regardé? Tu as regardé le superficiel. Tu as regardé l'emballage.
Ouais.
C'est comme les voitures. Tu as des voitures, par exemple, qui sont très belles, mais pas solides du tout. Et tu as des voitures qui sont très solides, mais pas très belles. Alors, tu décides ce que tu veux. Je dis, oui, mais le design, tu peux frimer, tu... Et t'accélères, la portière elle tombe. Tu dis, ah, dommage. À 180 à l'heure, le frein il s'arrête et l'accélérateur il se bloque. Tu sais que tu vas mourir.
Ouais.
Et l'autre, c'est une solidité. C'est une solidité. D'accord. Elle bouge pas, elle truc pas, le moteur il tourne. Tu rentres dans le mur, tu traverses le mur, elle a pas bougé, la sécurité, la truc. Mais elle est pas très jolie, elle est pas. Mais elle est solide. C'est exactement pareil. Oui. Annoncer les chemises nous, c'est-à-dire quelqu'un il se marie pour la débauche. C'est qu'il ne réfléchit pas avec sa tête, il réfléchit avec sa deuxième tête, qui est beaucoup plus basse. Celui-là, il va avoir un enfant qui ressemble à ça. Pourquoi? Parce que la teneur en matérialité de la semence, elle dépend de la teneur en matérialité de la pensée. Pourquoi tu as épousé cette femme? Après, c'est marqué Anosé Isha Leshem Mamon, celui qui va épouser une femme pour son argent. Quelqu'un dit, pourquoi je vais me casser la tête, faire des études, travailler? Je vais aller à Monaco, là-bas, je vais rencontrer une milliardaire, je vais la draguer. Elle va me dire, bon, je dis, qu'est-ce que tu amènes toi? Je vais te dire, moi, mais demain. Et toi, 5 milliards. Ah, c'est bien. Zivou, Gafé, Mazaltov. C'est marqué, Avialan, Banim, She'enam, Meuganim. Il va avoir des enfants qui ne sont pas corrects. C'est-à-dire des enfants qui n'ont pas de finesse, qui sont grossiers, qui sont intéressés, qui sont calculateurs, comme lui. Non, mais c'est violent. Parce qu'encore une fois, nous, tout ce qu'on vit, on le vit en tant que personne. Donc, on ne voit pas ce qu'on fait. Ouais. Mais quand on le voit chez nos enfants, ça nous rend fou. C'est-à-dire que c'est... J'avais dit une fois que c'est difficile qu'à l'âge de 20 ans, on t'en demande de faire des choix qui vont t'engager pour les 50 ans à venir. Il vaudrait mieux que tu attendes d'avoir 50 ans. Tu es bien dans ta tête, tu es équilibré, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu penses. Tu as fait 10 ans de thérapie, 15 ans d'yeshiva. Tu as fait ta situation, tu as tes 4 appartements à Natania, et maintenant tu dis, je vais me marier en connaissance de cause. Pourquoi le bon Dieu il veut qu'on se marie à 20 ans? Mais c'est trop jeune, on est trop... Ben, il faudrait attendre 50 ans normalement. Mais pourquoi la Torah elle veut que tu te maries à 20 ans? 18 ans. On est des gamins. Je vous avais dit à l'époque que l'âge ne dépend pas du nombre des années, il dépend du niveau de maturité. Maintenant, dans un choix, il y a deux parties. Une partie qui t'incombe, et c'est là qu'on a besoin de la maturité, et une deuxième partie qui t'incombe pas. C'est que le bon Dieu, il va faire des choix pour toi. Maintenant, toi, tu as fait des statistiques, tu as vu 7845 personnes, tu en as sélectionné 400 selon leur QI, selon leur physique, selon leur famille, tu as fait des examens génétiques sur 6 générations. Manque de peau. Dans cette famille-là, tous les 7 générations, il y a une folle. Et toi, t'as vérifié 6 générations. Et la 7e, c'est une folle. Pourquoi? Je veux dire pourquoi, c'est très simple. Parce qu'encore une fois, les choix, plus ils sont grands, plus la part de Dieu, elle est grande. Donc la partie que tu dois faire, tu dois la faire. Mais la partie de Dieu, elle va rester. Maintenant, le problème, c'est combien elle est cette part de Dieu? Elle est de 10%. Elle est de 80%. Elle est de 90%. C'est difficile. Alors ça s'appelle quoi? Que quand toi tu viens dans une certaine cavana, quelle est ton approche? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux te marier? D'accord. Pourquoi tu veux te marier? Parce que tu en as marre d'être seul? Parce que tu veux que quelqu'un te fasse la lessive? Parce que tu veux que... Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Parce que décide bien. Parce que ce que tu veux, c'est ce que tu vas avoir. là encore, là, un jeune couple, ils vont divorcer. Et pendant 2 ans, ils m'ont saoulé, ils sont venus me voir. On arrête, on recommence, on arrête, on recommence. La fille était un peu plus religieuse, ouais, mais elle voulait un peu délirer. Genre, laissez-moi tranquille avec l'exagération. Et le garçon, lui, il faisait genre, il est religieux, mais lui, il était très vraiment perturbé. Alors, par exemple, il avait 95 copines sur Facebook. Alors, la fille, elle dit, écoute, maintenant qu'on est ensemble, j'aimerais bien que tu arrêtes d'avoir tes copines sur Facebook à qui tu parles tous les soirs. Il a dit, pourquoi? Après, il est venu chez moi, il m'a dit, Rabbi Chetrit, c'est vrai qu'après qu'on se marie, je ne peux plus partir pendant 3 jours pour faire du ski avec mes copains. Je dis, t'es marié. Après, ils ont annulé le mariage. Après, ils ont repris le mariage. Après, ils sont mariés. Elle me téléphone, elle me dit, Rabbi Chetrit, on s'est engueulé parce que moi, je veux absolument aller jouer au poker 3 fois par semaine. Elle ne veut pas. Il paraît que je dois rentrer tous les soirs à la maison. Moi, je ne sais même pas quoi dire. Je dis, c'est un demeuré, c'est un malade mental, je ne sais pas. Après, il m'a dit, bon, là, c'est fini, je ne veux plus le voir. Je vais à Los Angeles, je reviens, ils étaient avec moi dans l'avion. Et je la vois avec la preuve concrète de leur amour. Moi, je dis rien. Et je dis, ben, Mazal Tov, c'est pour bientôt. Ouais, super, 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 super. Et là, il y a 2 jours, elle me téléphone, c'est fini. Mais qui crève, qui meurt, il ne me donne pas un centime, il est égoïste, il ne s'occupe pas de moi. Mais en vérité, il a toujours été le même. Et moi, je l'avais dit, j'ai dit, il est comme ça, faites attention, il est comme ça. Mais il ne veut pas, la personne, elle ne veut pas. Alors, vas-y, marie-toi. Vas-y, fais un bébé. Pourquoi? Parce que tu t'aveugles. Tu ne vois pas que la personne, elle est égoïste. Tu ne vois pas que la personne, elle n'est pas investie. Tu ne vois pas que la personne, elle n'est pas sensible. Tu ne vois pas que la personne, elle pense pas à toi. Tu ne vois pas ça. Mais ça se voit. Tu ne veux pas le voir. Tu ne veux pas le voir. Alors, vas-y, pose-le. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, en tant que parents, on doit faire un certain travail. Mais l'enfant, la personne aussi qui se marie, elle doit faire ce travail. Et elle doit faire ce travail, et c'est ça qui est bizarre, comme des parents. Moi, des fois, la jeune fille, elle vient me dire, voilà, j'ai un problème, écoutez. Il n'est pas sérieux, il n'est pas travailleur, il est tordu, il prend des vitamines, mais je l'aime. Je dis, mais est-ce que vous auriez présenté un garçon comme ça à votre sœur? Elle me dit, chas v'shalom. Je dis, mais en tant que mère, qu'est-ce que vous auriez dit à votre fille? Saute par la fenêtre. Je dis, pourquoi vous allez l'épouser? Elle me dit, mais je l'aime. Mais vous participez aux prises de vitamines ou? Je dis, je comprends pas, mais vous voyez qu'il n'est pas bien, non? Elle me dit, oui, mais c'est plus fort que moi, j'ai des sentiments. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la personne, et ça c'est très grave, ça veut dire que la personne, elle n'aime pas la personne qui est en face d'elle. Elle aime la personne qu'elle espère que l'autre, elle va être. Ou elle aime la personne qu'elle croit que l'autre, elle était, au départ quand elle l'a rencontrée. Mais les gens, malheureusement, qu'est-ce qu'ils font? Ils apprennent à se connaître. Nous, encore nous, on est fiancés 3 mois, 6 mois. Mais les gens, ils sont fiancés 3 ans. Ou là, 4 ans. Donc, ils ont le temps de se connaître. Mais le problème, c'est qu'entre-temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont d'abord tombés amoureux. Et après, ils ont appris à se connaître. Alors maintenant, avec qui va s'engueuler? Avec les sentiments qu'ils ressentent. Alors que la logique, c'est quoi? C'est que d'abord, tu dois connaître la personne. Et après, tu tombes amoureux. Parce que quand tu commences par tomber amoureux, l'amour, il déforme les choses. Tu ne peux pas voir les défauts. Parce que tu veux voir les qualités. Donc même si toute la famille, elle te dit, même si tes amis te disent, même si tes frères, ils te disent, même si ton cerveau, il te dit, c'est pas possible. Après, ça va tellement loin. Les gens, même ça fait 4 ans qu'ils souffrent, ils disent, oui, mais alors quoi, c'est 4 ans de perdu? Moi, je dis, j'entends des trucs, des fois, je dis, mais ils ont un cerveau, les gens, ou ils réfléchissent avec leur estomac? Ben, t'as perdu 4 ans, mais c'est mieux que de perdre 40 ans, non? Non, pourquoi? Ils appellent ça l'aveuglement. Ils disent, l'amour est aveugle. Oh, il y a un autre mot, mais c'est pas joli dans une synagogue. Ouais. Que la personne, elle ne réfléchit pas. Pourquoi? Parce que ses sentiments, ils ont été plus forts que son cerveau. Mais c'était rien qu'une logique de chronologie. Si tu commences par le cerveau, après que tu es rassuré au niveau du cerveau, la personne, elle est équilibrée, la personne, elle est cohérente, la personne, elle est cohérente dans sa religion, avec son niveau à elle et ton niveau à toi. La personne, elle a une vie normale. La personne, elle n'a pas une double vie. La personne, elle n'est pas dans le mensonge. La personne, elle investit. La personne, elle est honnête. La personne, elle est dans ses choix. C'est bien. C'est quelqu'un de bien. Vas-y, ouvre ton cœur maintenant. Maintenant. Non, les gens, ils font l'inverse. D'abord, ils ouvrent le cœur. Ils tombent amoureux. Après, ils commencent à dire, vous savez, j'ai découvert des choses. Je suis très déçu. Il ne me rappelle pas. Elle n'est pas sérieuse. Elle fait n'importe quoi. Elle me manque de respect. Je dis, mais c'est la même ou c'est une autre? Il dit, c'est la même. Je dis, mais comment ça se fait que vous avez fait le film à l'envers? C'est bizarre, non? Comme des gens, ils mangent au restaurant, et au moment de payer, ils disent, ouf, c'était pas bon. Mais ça fait une heure que tu manges. Ah, il faut payer? Ah bah oui, il faut payer. C'est pour ça. Pourquoi il y a la soirée? Pourquoi il y a la choupa? Pourquoi il y a la ktouva? Pourquoi il y a le mikvé? Pourquoi il y a le chotnida? Pourquoi tout ça? Ben c'est pour te montrer que c'est important. C'est important ce qui va se passer. C'est un mariage. Oui. Mais comme ils ont pris l'habitude, les gens d'égoïmes, de « Eh ben écoute, c'est pas grave. Puis si on se met ensemble, on se sépare, on passe un moment, on va faire un bout de chemin tous les deux. J'habite chez toi, t'habites chez moi. Je dors en toi, tu dors en moi. Oh, 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 oh. » Tu n'as pas compris. Quand tu as enlevé le côté sacré de la chose, quand tu as enlevé la valeur de la chose, tu n'as plus non plus la garantie de ce que ça vaut vraiment. Et ce qui est bizarre, c'est que les gens, attention, aujourd'hui, ils se marient comme ils se rencontrent et ils divorcent comme ils se quittent. Je ne sais pas si vous me suivez.
Oui.
Comme ça, genre, j'en ai marre de ta tronche, allez, c'est fini. Non mais attends, on vient de faire un mariage à 50 000 euros là. Mais je n'aime pas ta tronche. Les gens, ils... Pourquoi? Je te dis pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ils s'amusent. Ils ne mettent pas leur tête dedans, ils ne mettent pas leur conscience. Mais c'est nous en tant que parents, ouais. Bon, comme une fois, je demande aux jeunes quand ils viennent me questionner, oui, là, je dis, attendez, de quoi vous parlez là? Oui, mais j'ai des problèmes, on n'est pas d'accord. Non, je dis, c'est un flirt ou c'est un mariage? Dites-moi d'abord. Si c'est un flirt, ben, allez perdre votre temps. Si c'est un mariage, c'est une autre approche. Mais nous-mêmes, à nos enfants, nous, on doit leur expliquer. Nous, chez nous, ça n'existe pas, il n'y a pas de flirt. Ça n'existe pas chez nous, avant le mariage. D'accord. Mais si des gens, ils acceptent ça, parce que je vois des gens, ils disent, oh, ben, c'est pas grave, il a une petite copine, eh ben, il se côtoie, et il vaut mieux qu'il soit avec quelqu'un, avec une autre. Comme tu veux. Parce que moi, je juge pas. Bah, au Hachem, il y a beaucoup de niveaux dans le peuple d'Israël. Je ne juge pas. C'est le choix que tu as fait. Que Dieu t'amène la bracha dans le choix que tu as fait. Mais, tu dois les avantages et les inconvénients. Nous, on a les inconvénients que la personne n'a pas d'expérience quand elle va se marier. Toi, tu as les inconvénients que peut-être qu'avant le mariage, elle a déjà eu le cœur brisé 4 fois. C'est un autre choix. Chacun, il a fait son choix. Ouais. Et celui-là, il a été avec cette copine-là. Il y a une qualité. C'est que grâce à Dieu, maintenant, il sait ce qu'il veut. Mais d'un autre côté, il a un problème. C'est que la cinquième, il la compare avec les 4 autres. Il la compare avec les autres. Parce que celle-là, il avait ça de bien, celle-là, avait ça de bien, celle-là, ça avait de bien. Il essaye de fabriquer le Woman Frankenstein, comme ça, une espèce de mélange de tous.
Mais il n'y en a pas.
Il n'y a pas. La fille que tu vas épouser, elle aura des qualités et des défauts. Maintenant, je ne peux pas te dire qu'elle aura les mêmes qualités que toi. Je ne peux pas te dire qu'elle aura les mêmes défauts que toi. Mais je peux te dire que le dosage de qualité de défaut, il sera le même que toi. Est-ce qu'on est prêt à l'accepter? Maintenant, nos enfants, on doit leur apprendre à accepter ça. Ça, c'est dans l'éducation. Ils ont vu à la maison, ils ont vu papa, maman, ils ont vu les caractères différents, ils ont vu qu'on s'arrange, ils ont vu qu'on est positif, ils ont vu qu'on cherche des solutions, ils ont vu qu'on parle. Donc, eux, ils sont dans un état d'esprit que la vie, elle n'est pas simple. Mais qu'on réussit. C'est un état d'esprit. Ou le contraire. Moi, je t'envoie balader, toi, tu me saoules, et ben, casse-toi, et ben, je te parle plus. Donc, l'enfant, qu'est-ce qu'il apprend? Il apprend que quand on a un problème, vite, on se débarrasse. Donc, il apprend pas à assumer le problème. Donc, il apprend pas à grandir du problème. Mais le mariage, c'est la plus grande école d'éducation qui existe. Il n'y a pas. C'est rien du tout. L'école, c'est rien à côté du mariage. Ouais. Donc, si quelqu'un, il accepte peut-être pas rentrer dans cette école-là, comment il va faire? C'est marqué ici. S'appelle adosser les chaînes znout, celui qui se marie pour la débauche, ou celui qui se marie pour l'argent, ou celui qui se marie pour la grandeur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé l'aspect superficiel des choses. Il n'a pas regardé l'aspect essentiel des choses. Maintenant, adosser Isha les chaînes shamaïm, celui qui se marie les chaînes shamaïm. Ouais, parce que la Torah, elle a demandé de se marier, il veut se marier. Il dit, Avian les banim zecharim, il aura des enfants mâles, des garçons. Chez Marbim Torah ou Mitzvot Beisraël, qui vont multiplier la Torah et les Mitzvot en Israël, ou Moshiin et Israël Be'et Saratam, et qui vont sauver les Bnei Israël au moment de leur souffrance. Regarde l'autre extrême. Pourquoi c'est très simple? Ah, peut-être c'est pas chou. Celui qui voulait pour la beauté, celui qui voulait pour l'argent, il pensait à lui. Celui qui voulait pour la Mitzvah, il pensait pas à lui. Comme il pensait pas à lui, il a des enfants qui pensent pas à eux. Maintenant, celui qui est pensé à lui, il a des enfants qui sont égoïstes. Maintenant, ton égoïsme à toi, tu peux le supporter, mais l'égoïsme de l'autre, tu vas mourir. Donc, c'est quoi les Shem Shamayim? Ça veut dire quelqu'un qui a donné un niveau élevé à la chose.
que le projet il est plus grand que lui, c'est pas de ses petits intérêts à 2 francs.
Ouais. Il y a une semaine, un barco comme ça m'a téléphoné. Il m'a dit voilà, Rabbi Chetri, tout ça, j'ai rencontré quelqu'un, mais j'ai un problème avec la beauté. J'ai fait comment ça se fait que tu me parles de la beauté? Parle-moi du reste. Elle est gentille, elle est gentille. Elle est diplômée, elle est diplômée. Elle est sérieuse, elle est sérieuse. Elle est généreuse, elle est attentionnée, elle est fine, elle est impliquée, elle est réactive. Elle est. J'ai dit c'est une bombe atomique, garde-moi pour mon fils. Il m'a dit oui, mais physiquement, c'est pas exactement. Il m'a dit, je dis, mais vas-y, n'aie pas peur, rentre dans les détails. On est entre hommes. Il m'a dit, allez, des mollets un petit peu gros. Les mollets. Les mollets, les... Bon. Je dis alors, il me dit, elle a un nez. Il est tordu. Non. Il est gros. Non. Il est maigre. Non. Il est. Je te dis un truc que je comprends pas. Moi, je t'ai rien dit, je t'influence pas. Mais je pose une question. Quand tu as mis sur la balance toutes les qualités et les mollets, comment ça se fait que les mollets, ils ont fait ça? Il m'a dit, oui, mais quand même, elle doit me plaire. Il n'a pas compris. Si tu as mis toutes les qualités et que vraiment tu as pris conscience, et vraiment c'est une fille extraordinaire, et vraiment tu es bloqué, c'est une chose. Mais si tu as commencé par des mollets, tu ne peux plus rien voir. Maintenant, le bon Dieu, il va t'envoyer des mollets. Des très beaux mollets. Qu'est-ce que tu vas faire avec des mollets? Qui c'est qui va assumer la maison? Qui c'est qui va te soutenir? Qui c'est qui va t'encourager? Qui c'est que tu vas être dans la confiance? Qui c'est qui va éduquer tes enfants, les mollets? Ils sont bizarres, les gens. Je sais pas, ils sont bizarres. Il me dit, oui, mais alors, mais on a besoin quand même. Il n'y a pas le contraire. La Gemara, elle dit qu'un homme, il doit avoir une femme qui lui plaît. Déjà, parce que c'est normal. Deuxièmement, parce que ça le sauve de la Avera. Pourquoi il va aller regarder ailleurs s'il a, il a une femme extraordinaire? La femme aussi, elle doit avoir un mari qui lui plaît. C'est normal, il y a de ça. Il n'y a pas que le Yetzara féminin. Il y a aussi le Yetzara masculin, ça existe. D'accord. Mais est-ce que c'est ça qui doit remettre en cause tout? C'est pas normal. Pour ça, j'ai dit toujours, il y a 4 éléments. Le 5e élément, ils ont fait un film dessus, c'est pas la peine d'en parler. Mais les 4 éléments. D'abord, la personne, elle doit avoir la crainte de Dieu. Même si tu n'es pas religieux, c'est pas grave. Il faut qu'il y ait la crainte de Dieu. Parce que celui qui écoute sa conscience peut faire n'importe quoi. Celui qui écoute son cerveau peut faire n'importe quoi. Celui qui écoute sa culture, il faut qu'il écoute Dieu. C'est bien. Même si tu n'es pas religieux, c'est bien. Numéro 1, la crainte de Dieu. Numéro 2, l'équilibre mental. Numéro 3, Chokhmat Chaim, la sagesse de la vie. Tu sais, ouais, pas quelqu'un d'intellectuel forcément qui a bac plus 19. Non, non. Quelqu'un qui sait quand est-ce qu'il faut parler, quand est-ce qu'il faut se taire, qui sait respecter les beaux-parents, qui sait laisser sa place, qui sait dire à l'autre, écoutez, là, c'est mon couple. Ouais, ça s'appelle Chokhmat Chaim, la sagesse de la vie. Et numéro 4, la beauté. Vous avez compris ou non? Je répète, la crainte de Dieu, l'équilibre mental, la sagesse de vie et la beauté. Maintenant, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font l'inverse. Le problème, c'est que comme il regarde la beauté d'abord, il va éliminer beaucoup de gens. Peut-être qu'il va rater des gens extraordinaires simplement à cause de la beauté. Est-ce que quelqu'un va dire, mais c'est difficile quand même. Alors l'Agma, elle donne un exemple. L'Agma, elle raconte que Caleb Ben Yefouné, il voulait se marier. Il y avait un chidouch extraordinaire, c'était Myriam. Myriam, c'est la sœur de Moshe Rabbeinu. Et de Aaron, à Cohen. Moshe, c'est le roi d'Israël, et Aaron, c'est le Cohen Gadol. Maintenant, la Gemara dans la Bava Batra, elle dit que la majorité des enfants ressemblent aux frères du mari, aux beaux-frères. Aux frères de la femme, excusez-moi. Aux frères de la femme. D'accord? Donc, quand tu vas épouser la sœur de Aaron et de Moshe, tu sais que tu vas avoir des enfants qui vont ressembler à Moshe et Aaron. C'est pas mal, comme cadeau. C'est pas mal, ouais. Mais l'Agma a dit il y avait un problème, comme toujours il y a un problème, c'est que Myriam, elle avait fait la chonara sur son frère. Et à cause de ça, elle a attrapé la lèpre. Et je rappelle que la lèpre, c'est pas très très joli. Disons qu'il faut apprécier. C'est un peu comme une bougie qui a coulé, vous voyez, c'est un peu. Donc toute la peau, elle est. Il y a des bulles. Alors il avait un doute. D'un côté, c'est une fille extraordinaire. De l'autre côté, tu as envie de mourir la veille de la foupa. Comment il va faire? Alors, l'Agma a dit, il s'est marié quand même. Ça devait être religieux. Il s'est sacrifié. L'Agma a dit, il s'est marié. Alors, l'Agma a dit, il y a eu un miracle. C'est quoi? C'est qu'elle a retrouvé sa beauté. Et elle avait une beauté. C'est la Gemara. Moi, je dis pas des choses comme ça. Mais la Gemara, elle le dit. La Gemara, elle dit que Myriam, elle était tellement belle que quand un homme, il la voyait, il courait chez sa femme. Et pas pour jouer au Monopoly. Vous voyez, d'accord ? Je sais pas si vous voyez, un genre de beauté. C'est une beauté spéciale. Même s'il me dit chiche portiche, elle n'a pas réussi à ce niveau-là. Ouais. Cindy Chichportiche, une cousine de Cindy Crawford. Donc, bon, à Paris, ça fait rigoler, mais vous, je sais pas. Bon. Donc, c'est quoi l'idée? C'est quoi? C'est que la personne, en vérité, il a épousé une femme très moche, elle est devenue très belle. Donc, bon, au prochain, maintenant, il a la beauté, plus une tzadekette extraordinaire. Mais il y en a qui disent que non, en vérité, elle n'est pas devenue plus belle. Elle est restée la même. Mais lui, il a vu sa vraie beauté. Maintenant, tu vas épouser une femme. Tu vas l'épouser. Bon, c'est bien qu'elle soit canon, c'est bien qu'elle soit magnifique, c'est soin que ça soit. Ouais. Et le temps, il va passer et il va avoir besoin d'autres valeurs plus solides. Ouais. Maintenant, tu sais que les trois quarts des gens qui sont très beaux, ils font pas d'efforts au niveau de la construction intérieure parce qu'ils comptent sur leur crédit extérieur. Quand tu sais que tu es beau, tu n'as pas besoin d'être patient parce que les gens ils te supportent. Tu n'as pas besoin d'avoir un bon caractère parce que les gens ils te supportent. Tu n'as pas besoin d'être généreux parce que les gens ils te supportent. Donc tu sais que tu vas avoir beaucoup de défauts. C'est pas grave parce que t'es beau. Par contre, le contraire. Quelqu'un qui passe 100% beau, il va compenser intellectuellement. Il va développer. Au niveau de la maturité, il va développer. Au niveau de la générosité, il va développer. Parce qu'il veut compenser. Donc en vérité, qu'est-ce que tu fais toi? Toi, tu crois que tu fais un sacrifice parce que tu prends un petit moins de beauté, mais tu prends des valeurs. Après, il faut décider si t'es un consommateur ou si t'es un investisseur. Si tu es un consommateur, c'est à court terme. Si tu es un investisseur, c'est à long terme. Comme quel type il a 50 000 euros. Il dit, tu sais quoi, je vais me faire des vacances à 38 000 euros. Après, je vais m'acheter de la bouffe pour 8 000 euros. Et après, tu dis, oui, c'est mes 50 000. Deux semaines, j'ai tout perdu. Quand il a 50 000 euros, il prend des parts dans trois appartements. Et dans 15 ans, il a trois appartements qui lui appartiennent. Ça, c'est un investisseur. Et ça, c'est un consommateur. Maintenant, le consommateur, il regarde l'extérieur des choses et l'investisseur, il regarde l'intérieur des choses et le consommateur regarde l'extérieur des choses. Maintenant, il y a une loi très connue chez les gens qui vous expliquent comment on fait un régime. Il ne faut jamais faire les courses quand on a faim. Quand vous allez acheter à manger, il ne faut jamais y aller quand vous avez faim. D'accord ? Mangez un petit sandwich et allez au magasin. Parce que quand vous avez faim, vous allez tout acheter. Vous m'avez suivi ou non? Ça veut dire qu'il ne faut pas aller chercher à se marier quand tu es trop excité. Parce que c'est sûr que tu vas consommer. Tu ne vas pas investir. C'est-à-dire que tu dois avoir une sérénité mentale. Tu dois être bien dans ta tête. Tu dois être bien chez tes parents. Tu dois être bien dans ta vie. Tu dois être bien dans ta situation. Et tu vas dire, maintenant, je vais rencontrer quelqu'un. Alors on dit en français qu'il faut se marier quand on est mariable. Hein? Ça dépend des gens. Non, encore une fois. Je parle pas des exceptions. Je vous dis, nous, 20 ans, 21 ans, c'est bon. Ouais. Mais je vous dis, on n'a pas commencé à travailler à 20 ans pour leur dire qu'il faut se marier. Bon, à 14 ans. Plus notre exemple, ça leur fait gagner encore 4 ans. Plus le travail qu'on fait sur eux, ça leur fait gagner encore 5 ans. On fait le travail avec les enfants, on parle, on développe, on travaille. On regarde ce qui se passe avec ta soeur, viens, on va réfléchir. Comment ça s'est passé, viens, le truc. Et pourquoi c'est comme ça, et qu'est-ce que c'est le maquillage, et qu'est-ce que c'est la beauté, et qu'est-ce que c'est l'intériorité, qu'est-ce que c'est le sacrifice, qu'est-ce que c'est les efforts. C'est pas qu'on les laisse devant la télé pendant 19 ans, et après on leur dit, bon tu sais, il faut que tu te maries. Ah ben non. Oui, on a travaillé avec l'enfant. Là encore, moi j'ai un enfant en Israël, je l'appelle, je dis bon alors regarde, tu sais, j'ai fait ça et j'ai fait ça dans le cours, et qu'est-ce que t'en penses? Et toi. Et l'autre, maintenant, il dit alors, pour le travail, qu'est-ce que t'en penses? T'as pensé comme ça, au travail. Mais tu sais, mon fils, faut que tu fasses un choix, prends du recul, réfléchis. Ah oui, papa, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit. C'est ça le travail, ça on travaille, ouais? C'est pas ce qu'ils, bon ça va, paye leur des vacances, paye leur l'école, engueule-le de temps en temps, paye leur une pizza, et après on espère qu'ils vont sortir bien. Mais non, ça travaillait! Combien des heures à parler, combien des heures, et parler avec le directeur, et parler avec le professeur, et parler avec les amis, et parler avec la personne, et parler avec l'enfant, et retravaille, et retravaille, et retravaille. Tu sais qui c'est qui va rentrer sous la coupa. Comprenez ou non? C'est pas un hasard. Tu sais ce que t'amènes. C'est normal. T'as fait aussi, t'as travaillé, c'est normal. Moi, je vois les gens, je sais pas, j'entends des choses. L'autre jour, il y a une maman qui me téléphone. Elle me dit, Rabbi Chetrit, je sais pas si je voulais avoir raconté ça vachement un peu. Elle me dit, Rabbi Chetrit, j'ai un très gros problème. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et la dame, je la connais. Elle me dit, mon fils, il a fait une très grosse bêtise avec sa copine. Je dis, quel genre de bêtise? Ah, une très très grosse bêtise. Bon, quel genre de bêtise on peut faire avec une fille? Vous imaginez un petit peu, d'accord? Je dis, bon, d'accord. Je dis, mais alors quel âge elle a? Mais le problème, c'est qu'elle a 16 ans. Mais lui aussi, il a 16 ans. D'accord. Je dis, maintenant, vous acceptez qu'il a une copine. D'accord. En plus, la fille, elle est très jolie. Et votre fils, il n'est pas en plastique. Donc, vous avez pris un risque. Mais il s'est passé ce qui s'est passé. D'accord. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle me dit? Je vous en prie, recevez-les, je les reçois, je leur parle pendant 2 heures. Attention, la sexualité c'est important, il ne faut pas le prendre à la légère. Et vous, il faut comprendre, ça vient avec le mariage, pourquoi ça vient avec la kedusha? Parce que sinon, on désacralise la chose, ça n'a plus de valeur, on devient des animaux, et vous pouvez grandir la chose. Un bébé, il peut naître un peu, ils sont bien pleurés, on ne recommencera plus, on va se trouver des moyens, on va se respecter, on va apprendre à s'aimer. On va... D'accord, super. Maintenant, ils restent plus tout seuls dans la maison, maintenant ils font attention de ne pas s'exciter, maintenant ils ne se touchent pas, maintenant on a trouvé, ils ont fixé des règles, super. La mère me téléphone une semaine après. Elle me dit, Rabbi Chetrit, j'ai un problème maintenant. Maintenant, je me demande, parce que bon, c'est vrai que c'est sa copine depuis 2 ans, mais maintenant, j'ai un problème. Je me demande si la mère, elle est vraiment juive. Je dis, attendez, j'ai pas compris. Vous avez accepté que ça soit sa copine pendant 2 ans. Vous avez été choqué qu'ils ont fait des grosses bêtises. Et maintenant que ça devient un peu sérieux, vous demandez si elle est voyante. Mais vous faites pas le film à l'envers. Ils sont bizarres, les gens. Comprenez ou non? Ils sont bizarres. Je dis, mais ça, c'est une question qu'il faut demander au départ. Tu vas faire rentrer quelqu'un dans ta famille. Ouais, tu dois réfléchir. Moi, mes enfants. Je leur dis, écoute, mon fils, maintenant tu as 20 ans, peut-être on va te proposer, peut-être tu vas rencontrer, peut-être tu vas rigoler, peut-être tu vas draguer. Fais attention. Ça, c'est une femme. Elle rentre dans ta maison. Tu dois connaître tes parents. Tu dois connaître son éducation. Tu dois savoir d'où elle vient. Tu dois savoir comment elle est la famille. Tu dois savoir. C'est à toi de réfléchir. Nous, on va faire notre travail et toi, tu vas faire ton travail. Mais ne fais pas le contraire. Ouais. Ah, pourquoi vous n'avez pas vérifié? Pourquoi vous n'avez pas? On a eu des cas aussi avec nos enfants à nous, qu'ils ont rencontré quelqu'un et tout ça, un chidour. Et après, le rabbi l'a téléphoné. Écoutez, il a dit, écoutez, c'est une caractérielle. Je vous préviens, faites comme vous voulez. Ben, on a été sauvés. D'ailleurs, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, elle a divorcé au bout d'un an. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils laissent faire. Vas-y, sors et amuse-toi et fais ta vie. Et après, va chez les rabbins. Comment on peut arranger? Mais Ahmar, vous étiez avant, non? Moi, j'ai dit, mais moi, j'ai eu des cas, par exemple. L'autre, il est mamzer. Mamzeret. T'as compris, non? Vas-y, va gérer maintenant. Mais ils sont fous amoureux. Mais tu vérifies pas. Maintenant, toi, de ton côté, en tant que parent, et si tu es un parent un peu cool, tu dois expliquer à l'enfant la différence entre un flirt et un mariage. Si tu l'as pas fait, eh ben vas-y, joue, vas-y. C'est comme si quelqu'un cherche la fuite de gaz avec un briquet. Puis ça va éclater. Maintenant, quand on augmente cette maturité, c'est-à-dire on les met en situation d'eux, ouais, on parle, on s'assoit avec eux. Moi, mes filles à 16 ans, je leur explique. Je dis, attention, tu vas grandir. Maintenant, tu t'habilles d'une certaine manière, tu représentes quelque chose. Tu saches que le garçon, à quoi il pense, la fille, qu'est-ce que tu es toi? Maintenant, c'est pas le moment. Maintenant, tu dois penser à ton bac. Après, tu dois penser à ton séminaire. Eh bien, après, on va faire. Et t'en fais pas, on va trouver quelqu'un de très bien. Ou Hachem, il va tomber quelqu'un de très bien. N'aie pas peur. Mais on parle de ça. Si on dit Chas Véchalam, c'est pas la peine d'en parler. Tu crois que les enfants, ils sont bêtes, ils sont pas au courant, ils savent pas tout, ils savent tout. Alors si toi tu leur as donné déjà dans la Kedusha, ils vont pas aller le chercher dans la Touma. Mais si toi tu parles pas, tu crois que le Satan il va se gêner de leur expliquer? T'as compris ou non? C'est qu'en vérité nous on fait le travail préliminaire. Comme je vous ai expliqué déjà 1 million de fois, l'ordinateur installe les logiciels, installe, ouais, t'as acheté un ordinateur, il n'y a rien dedans, il y a Windows, ouais, vas-y, mets Word. Mes publishers, je sais pas moi, mes Nero, mes installe les logiciels. Tu dis, mais peut-être qu'il va pas les utiliser. En plus, il s'en fiche. Il me dit qu'il s'en fiche. Et ça l'intéresse pas. Installe les logiciels. Dis-lui ce qu'il doit savoir. Mets-le dans la tête. Et tu verras que dans 10 ans, il dira, ah, je me rappelle quand papa il disait ça, quand maman il disait ça. Parce que t'as installé. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Comme l'enfant il a mauvais caractère, ou parce que ça les saoule, ou parce qu'ils ont pas le temps, ou parce qu'ils croient que l'école va le faire, ils installent pas les logiciels. Ben, les logiciels, ils sont pas installés. Maintenant, un ordinateur, quand tu mets un fichier Word et que tu n'as pas Word, il ne s'ouvre pas. Ça va? Donc l'enfant, il ne va même pas voir qu'il y a un problème parce qu'il n'a pas installé le logiciel.
Ça prend 5 minutes, hein. 5 minutes. 5 minutes. Moi, j'avais un enfant qui avait commencé à fumer. Je l'ai attrapé, je l'ai expliqué gentiment. Je dis, mon rave à moi, il fumait 4 paquets par jour. Je fais, moi, j'ai jamais fumé une cigarette entière. Voilà le danger, voilà le cancer, voilà le truc, voilà la dépendance, voilà la nervosité du Shabbat. Voilà que tu commences, au début, c'est pour frimer et après, ça devient une envie. Bah, que tu vas combler ton. Voilà, je lui ai tout dit. Maintenant, je fais ce que tu veux. De toute façon, t'as 16 ans, t'as 17 ans, tu peux fumer en cachette, tu peux faire ce que tu veux. Moi, là, je t'ai donné non. Ni je vais te frapper, ni je vais te crier. À 8 ans, je te mets une tannée. À 17 ans, j'ai parlé avec toi. Voilà, maintenant. Mais il a pris le paquet, il a fait comme ça. Il a jeté. Et je dis, prépare-toi que ça va revenir. Et prépare-toi que ton copain, il va te pousser. Et prépare-toi qu'à la yeshiva, à côté de toi, le type, il va te proposer. Et prépare-toi à tout ça. Et tu vas être. Pourquoi? Parce que nous, nos enfants. On veut qu'il soit bien devant nous ou même quand on n'est pas là. Vous comprenez ce que je dis ou non? C'est ça l'éducation. L'éducation, elle est valable quand tu n'es pas là. Quand tu es là, c'est de l'hypocrisie. C'est quand tu n'es pas là que ça a une valeur. Alors, je vous dis la logique. Quand tu mets la pression, l'enfant, il devient hypocrite. Et quand tu lui fais confiance, l'enfant, il devient autonome. C'est comme tu veux. Maintenant, je dis la vérité, c'est dur de faire confiance. Donc, c'est plus facile de mettre la pression. Mais les résultats, ils sont là. Donc, c'est exactement pareil. Quand toi, tu regardes sur le long terme, c'est-à-dire que tu travailles avec l'enfant sur le long terme, donc automatiquement, qu'est-ce que tu lui fais? Tu lui donnes du long terme. Maintenant, quand tu travailles sur le court terme, parce que tu veux te débarrasser du problème, donc tu l'éduques à faire des choix à court terme. Lundi dernier, j'ai fait une conférence. Bon. Alors, à la fin, il y a un monsieur avec sa femme, ils sont venus me voir. Jeune, 24 ans, 25 ans, 3 enfants. Alors, la femme, elle me dit, écoutez-moi, Rabbi Chetri, je suis très embêté parce que mon mari travaille, il y a beaucoup de femmes dans son travail, il y en a une qui est toujours habillée sexy et ça m'énerve. Elle me dit, moi, j'ai fait teshuva, maintenant, je suis habillée comme ça et comme ça. Ah non, alors maintenant, je ne suis pas jolie comme avant. Je sais pourquoi vous êtes jolie, parce que, bon. Alors, elle me dit, j'ai peur qu'il regarde et j'ai peur qu'il s'excite. Alors, j'ai dit, toi, qu'est-ce que tu dis? Il me dit, Rabbi Chetri, je dis la vérité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes. Maintenant, j'avais un bureau à part. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé mon bureau à part, je me suis mis au milieu de tout le monde, exprès. Maintenant, une femme, elle n'a pas le droit de venir me parler tout seul avec moi. Ouais, elle vient toujours avec un homme. Et moi, j'ai aucune familiarité, monsieur, mademoiselle, madame, et je les vous vois, exprès, par respect pour ma femme. Et elle m'a dit, et si elle veut, je leur demande à toutes, même les goyotes, de venir avec une blouse. Vas-y, va arranger le sexy. T'as compris ou non? Je dis, vous voyez bien que votre mari fait des efforts. Elle me dit, oui, il fait des efforts, mais j'ai peur. J'ai peur. Ah, j'ai dit, écoutez, madame, écoutez bien ce que je vais vous dire. Votre problème de votre mari, c'est rien. Mais Hachem, il vous prépare pendant 15 ans. Parce que quand vos enfants, ils auront 16, 17 ans, vous n'aurez pas confiance. Elle me dit, non, mais je vais les mettre dans un milieu où il n'y a pas de danger. Ça n'existe pas, les milieux où il n'y a pas de danger. Dans la yeshiva, il va trouver le khalala. Vous voyez ou non? Maintenant, vous, votre HM, il vous a envoyé maintenant la peur avec votre mari pour que vous travaillez la confiance. Maintenant, si vous travaillez la confiance, vous pourrez donner confiance à vos enfants. Donc, vos enfants, ils ne feront pas des bêtises parce que vous avez confiance en eux. Maintenant, si vous, malgré que votre mari fait des efforts, vous n'avez pas confiance. Donc, même quand vos enfants feront des efforts, vous n'aurez pas confiance. Et quand vous n'aurez pas confiance, ils n'auront pas confiance en eux, alors ils vont faire des bêtises. Alors, je lui dis, je sais que vous ne comprenez pas ce que je dis parce que vous avez 24 ans. Mais quand vous aurez 34 ans et 10 ans d'expérience, vous comprendrez que moi, je vous ai parlé d'un programme. Vous me parlez d'un problème. Et moi, je vous parle d'un programme. Vous comprenez la différence ou non? C'est que si tu regardes les choses en perspective, et c'est ça l'éducation, tu regardes en perspective. Maintenant, si moi, avec l'enfant, j'ai regardé en perspective, ouais. Alors si Dieu veut aussi, l'enfant, quand il voudra se marier, il va regarder en perspective. Mais si moi j'ai regardé le court terme, maintenant il m'énerve, maintenant c'est pas ce que je veux, maintenant il me respecte pas, maintenant il m'écoute pas, mais ça c'est ponctuel, on s'en fiche, maintenant tout le monde, alors on va se marier, ils vont tous partir dans la maison, tu vas faire avec tes nerfs, ça sert à rien. Si tu regardes à court terme, donc l'enfant il va regarder à court terme, donc il va regarder quelque chose de superficiel, il va regarder quelque chose de consommable sur place, il va regarder quelque chose où il s'amuse, il va regarder quelque chose qui lui fait plaisir extérieurement, même si intérieurement c'est pas exactement les valeurs qu'il veut. Vous ne croyez pas que l'enfant qui traîne avec la Goya, il est content, il n'est pas content. Il a du mal. Vous ne croyez pas que le garçon qui a choisi pour la beauté, il n'est pas angoissé dans sa tête parce qu'il voit bien qu'elle est bête. Lui aussi, il voit. Mais c'est plus fort que lui. Mais donc la question, c'est quoi? C'est qu'on va donner à l'enfant des outils pour que lui, il arrive à voir loin. C'est ça ce qu'elle dit la Guémara.
Est-ce que tu te maries pour la débauche? Est-ce que tu te maries pour l'argent? Est-ce que tu te maries les Shem Shamaim? Les Shem Shamaim, ça veut dire que tu le fais pour un projet. Tu regardes pas une personne, tu regardes un potentiel. Tu regardes pas des intérêts, tu regardes des valeurs. Ça, cette logique-là, ouais, c'est-à-dire que c'est déjà que tu as formaté l'enfant qui sait faire ça. Il sait faire les choix à court terme, il sait faire les choix à long terme. Mais s'il le sait pas, donc il est quelqu'un de superficiel. S'il est quelqu'un de superficiel, qu'est-ce que tu vas lui faire quand tu vas lui trouver des gens essentiels? Mais comment tu vas mettre quelqu'un d'essentiel et quelqu'un de superficiel? Ça marche pas. Une fois, je vous ai dit, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Moi, je suis très philosophe. Je suis très philosophe. Ouais, là, vous me voyez comme ça, je rigole avec vous. Mais pour moi, tout ça, c'est des carambars. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir à la lumière et la notion de la temporalité selon la conscience de chacun. Est-ce que la vitesse de la lumière, elle est différente? C'est ça qui m'intéresse. Moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Maintenant, moi, personnellement, que je parle avec 20 000 personnes par an, je parle avec des gens, moi, une fois par an. Je ne sais pas si vous me suivez. Maintenant, moi, dans tous mes enfants, j'ai pas des enfants qui sont philosophes, comme moi je suis. Ouais. Moi, à 14 ans, toute la nuit, pendant 6 mois, je réfléchissais sur le temps, sur l'histoire. Quand j'étais en terminale, mon professeur, il me disait, ça c'est Kant, ça c'est Goethe, ça c'est Oppenheimer. Et moi, j'ai jamais ouvert un bouquin de philo de ma vie. Alors, je vous dis pas ça pour vous raconter ma vie. Pour vous dire que, bon, alors Hachem, maintenant, il a pas pensé que j'allais avoir des enfants comme ça. Et ça me dérange pas. En quoi, je vais pas les aimer parce qu'ils sont pas comme je veux. Et moi, je vais les stresser de leur dire, vous devez être comme je pense. Et moi, je vais leur dire, il faut que vous épousiez quelqu'un qui va vous obliger à être comme moi je veux. Vous avez compris cette logique ou non? Et chacun, c'est pareil. Chacun, il doit regarder son enfant. Chacun, il doit regarder sa personne. Chacun doit savoir qui il est pour pouvoir exactement être en face de sa réalité. Sinon, c'est dangereux. Regardez ce qu'a dit la Gemara. Kol anose isha she'ena ogenetlo. Tout celui qui épouse une femme qui n'est pas adaptée à lui. Over mishum, il va transgresser les interdits de l'oticom, tu ne te vengeras pas. L'otitor, tu ne garderas pas rancune. L'otisner, tu ne haïras pas. Il transgressera aussi l'interdit de ve'aftalera hakamocha. Il ne va pas faire la mitzvah d'aimer, puisqu'il va haïr. Après, il va transgresser ve'hayachichaimach. Ouais, ton prochain, il vivra avec toi. Et il dit mitor chez soneota, et puisqu'il va haïr cette femme-là, donc. Rotse chez Tamut, il voudra qu'elle meure, ou Mevatel Pirvirifia, donc il n'ira pas avec elle, donc il n'aura pas d'enfant. Tout ça pourquoi? Parce qu'au départ, il n'a pas réfléchi à cette personne-là, est-ce qu'elle est adaptée à lui ou non. Par contre, le contraire. Prenez l'avantage de l'inconvénient. Quelqu'un qui va épouser la bonne personne, donc plus il va l'épouser, plus il va voir qu'il colle avec elle, puis il va l'aimer. Donc il va faire la mitzvah de Ve'afta, d'accord? Donc il va faire le contraire de la haine, il va se rapprocher. Donc il n'y aura aucune rancune, puisqu'il va être constructif. Il ne va pas avoir de vengeance, puisqu'il va faire que du positif dans sa vie. Après, il va accepter de vivre avec elle à 100%, puisqu'il sera épanoui ensemble, et plus ils vont s'épanouir. Après leur épanouissement intellectuel et leur épanouissement émotionnel, il va entraîner leur épanouissement au niveau intimité, qui ne va jamais s'arrêter. Tout ça de quoi? Simplement parce que Ogenet, Ogan, ça veut dire qu'ils correspondent. C'est comme le stylo. Tu as le stylo. Ouais. Il y a le bouchon. Tu le mets, il fait clac. C'est le bouchon. Maintenant, il y a un million de bouchons. Il y a un million de stylos. Et celui-là, il ferme pas. Celui-là, il tombe. Celui-là, il truc. C'est pas adapté. Ah non, c'est pas le bon. C'est dommage. C'est pas le bon. Hein. Alors, je lui dis, ça veut dire que la préparation, il l'a pas faite au départ. Parce que quelqu'un, il le comprenne parce qu'il est très intelligent. Ou quelqu'un, il le ressente parce qu'au niveau intuitif. Ouais. Et les gens, bon, nous, encore une fois, on se voit 3 mois, 6 mois. Mais les gens, ils restent fiancés un an. Tu vois pas qu'il y a un truc qui va pas. On s'engueule tous les jours, on se comprend pas. Elle me manque pas. Elle m'énerve. Elle mange, elle me dégoûte. Tu vois pas tout ça. Mais ils sont pas aveugles quand même, les gens. Ah, mais les préparatifs. Mais c'est pour ça qu'il y a des fiançailles. Parce que c'est moins grave de casser des fiançailles que ça de casser un mariage. Mais qu'est-ce qu'ils font, les gens? Pendant la période de la drague et la période des fiançailles, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent toujours à 15, ils rigolent, ils parlent en l'air, ils abordent jamais les vrais sujets, ils ne parlent pas clairement, ils ne se mettent pas dans une table à dire, allez, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on croit, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on... Ils ne font jamais ça. Ils se marient. Et après, ils sont obligés de le faire. Alors que c'est le contraire qu'il faut faire. Le contraire. Nous, à la troisième rencontre, déjà, ils parlent. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu penses pour l'avenir? Qu'est-ce que tu veux investir? Quelles sont les priorités? Alors que nous, déjà, dans le Shidduch, on a déjà fait des recherches avant. Nous, on connaît la famille,
les antécédents, les cousins, les trucs, on sait, les parents, qu'est-ce qu'ils font, comment l'éducation, par où il est passé, quel type d'école a rencontré. Après, on interroge les rabbins qui sont occupés, les gens qui sont dans sa chambre, les gens qui sont assis à côté de lui à la yeshiva. Tout ça, on a tout ça. Et avec ça, on n'a pas tout. Alors que les gens, rien comme ça.
Tu les connais pas, eux. Ils sortent, ils te l'amènent de la faculté. Tiens, voilà, je te présente, Virginie.
Elle a l'air gentille. Écoute, elle a l'air gentille. Elle a l'air sympa. Mais qui sait, on ne sait pas. Ses parents, on ne connaît pas. La famille, on ne connaît pas. L'équilibre, on ne connaît pas. Le passé, on ne connaît pas. Les loisirs, on ne connaît pas. Mais il dit qu'elle est gentille. Je ne comprends pas, pour acheter une voiture, tu as fait 64 tests sur Internet, et là, pour marier ta fille, tu... Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, les gens, moins ils sont religieux, plus ils croient au miracle. Nous, qu'on est religieux, on fait attention. Ouais. Et ça, encore une fois, ça reste 20%. Hein. Ça reste 20%. Parce qu'il reste les 80%, c'est le bon Dieu qui fait. Et tu vois. Parce que après, tu fous, tu dis, c'est incroyable. En fin de compte, tu maries ta fille avec quelqu'un, d'accord? Et après, tu parles avec la famille, ils te disent, mais vous êtes de telle ville, oui. Alors, les deux grands-mères, en fin de compte, les deux grands-mères, ou les arrière-grands-mères, elles se connaissaient. Et à l'époque, ils ont dit, un jour, si Dieu veut, on va se marier ensemble, les deux familles. C'est-à-dire que les choses, t'en fais pas qu'elles sont minutées, orchestrées. Maintenant, comme tu peux être orchestré dans le bien, malheureusement, tu peux être orchestré dans le mal. Et tu verras que la personne qui a fait l'effort, qui a investi, qui a sacrifié, qui a prié, qui a éduqué, c'est jamais perdu. C'est pas perdu. Mais le contraire, celui qui a fait n'importe quoi, qui n'a pas investi, qui a déliré, qui a fait des crises, qui a fait des nerfs, qui a fait de la méchanceté, qui a fait de la violence, qui a mis des priorités à l'envers, qui a mis de l'argent à la place de l'investissement, qui a mis des vacances à la place de l'éducation, crois-moi que ça, il va le retrouver aussi. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. C'est une loi physique. Rien ne se perd. Tout se transforme. Donc c'est ça l'idée. C'est est-ce que nous, on veut avoir des vraies valeurs avec des gens qui sont éduqués, ou alors on veut n'importe quoi. Maintenant après, c'est ça ce que j'ai dit. Pour ça que j'ai commencé par ça. C'est qu'il y a des gens que toute leur vie, ils vont casser et ils vont réparer. Ouais. Et il y a des gens, ils vont éviter de casser. Tout à l'heure, ce monsieur qui me téléphone d'Israël, au bout d'un quart d'heure, il me dit, mais alors je comprends pas, Rabbi Arya, mais votre livre, je l'ai lu 3 fois. Mais d'après ce que je comprends, chaque chapitre, ça prend des années. Je dis, mais bien sûr. Il croyait que c'est magique. Je dis, mais moi, la colère, j'ai travaillé 10 ans. Le respect de l'autre, j'ai travaillé 5 ans. La communication, de trouver le bon mot adapté à la personne, j'ai travaillé des années. C'est pas comme ça, tu ramasses par terre. Et avec ça, encore que nous, on a eu de la chance, que Baruch HaShem, que nos parents, on a vu leur valeur, et que nos grands-parents, on a vu leur valeur. C'est-à-dire que c'était des gens éduqués, des gens équilibrés. Ils n'ont jamais vu faire des crises, jamais d'alcool, jamais de nerfs, jamais d'adultère, jamais de traouède. Et avec ça, c'est pas facile. Mais les gens qui ont vu la violence, la pourriture, la touma, la débilité, le délire, après tu dis, il y a du travail. Ben évidemment qu'il y a du travail. Alors nous, qu'on a travaillé, comprend qu'on doit travailler. Et l'autre qui n'a jamais travaillé ne comprend pas pourquoi il doit faire des efforts. Ça va? Mais malgré tout ça, encore une fois, ça reste 20%. Le reste, c'est de la prière. Il faut prier, prier, prier. Moi, je prie depuis la naissance. Des fois, les gens arrivent à la fin d'un cours. Vous pouvez prier pour ma fille, si Dieu veut, pour qu'elle ait un bon zivoug. Je vais faire une prière. Je dis, mais non, moi j'ai prié une fois. Mais vous devez prier tout le temps. Elle me dit, je vais aider des autres rabbins. Non, je fais vous priez. Moi, matin, midi et soir, depuis la naissance, je prie pour les enfants. Tous les jours. Tous les jours. Je dis, ah, ça va, c'est bon. Il y a un petit pot. Un Pessah. Tu as des moments importants. Non. C'est tous les jours. Chaque Amida, tu pries pour tes enfants. Et avec ça, c'est pas évident. Alors, Bézant Hachem, que Hachem, il vous envoie un bon zivoug pour chaque enfant, et que les gens célibataires se marient, et que les gens mariés restent mariés. Amen. Ah oui, le 26 mai, alors Bézant Hachem, ça sera normalement le dernier cours de l'année. Donc, on vous donne rendez-vous, prévenez vos amis. En plus, il y aura une surprise, mais je ne sais pas laquelle, puisque c'est une surprise. C'est un dimanche aussi. Donc le 26 mai, Bezrat Hashem, dernier cours de l'année.